Putain, on va peut-être y arriver, hein. Vache. Bon. Allez. Bon, cette fois-ci, nous sommes mercredi 9 octobre, nanana, le dojo bar.
Ah
bonsoir à tous. Bonsoir, oh putain. La console de mixage vient de faire un petit.
J'ai tout qui, putain.
C'est tout, tout est en train de partir. Tout est sous contrôle. Cette voilà. Émission est parfaitement maîtrisée. Bonsoir à tous, bonsoir Zergy.
Salut.
Gamelle dans le fond, tout va bien.
C'est un dojo cuisine.
C'est le dojo cuisine. Non, mais en fait, on vous a pas dit, on a été racheté par Cooking Mama. Et du coup, c'est Dojo Bar X Cooking Mama.
En fait, maintenant, on a une cuisine où on fait des burgers, comme dans tous les bars parisiens.
Voilà. Bonsoir, Mectrou.
Yo.
Bonsoir, Antix.
Wesh.
Et peut-être qu'on va y arriver. C'est pas le... Non, là, c'est un petit peu l'émission...
On est un petit peu en mode zombie. C'est le bordel, c'est plutôt Overcook.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on est quatre. On essaie de collaborer pour faire la cuisine. Effectivement, ça ressemblerait plus à Overcooked. Par contre... Bon, alors, on va commencer par...
Ah, voilà.
Là, on va peut-être... Ah, on va se poser. On va peut-être arriver à faire une émission.
Un petit soft.
Monsieur JBC, bonsoir. Je dis bonsoir au chat Twitch qui nous écoute en direct. Donc, je vous rappelle, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez nous écouter en direct. Si vous nous écoutez en direct, vous pouvez nous écouter en podcast. Ça ne veut rien dire. Merde. Le programme de cette émission. Oui, je suis pour. Je m'appelle Mortal et j'approuve ce message. Voilà, je pense qu'on est à toute fête, c'est bon. On peut y aller. Donc, le programme de cette émission, nous allons parler de Dragon Quest 11 un petit peu. Pas forcément beaucoup, parce que tout le monde ne l'a pas fini. D'ailleurs, en fait, moi, j'ai pas joué du tout. C'est vous qui allez parler de Dragon Quest 11. C'est bien, je vais faire le maître de cérémonie qui est la place que je préfère. On va parler de Link's Awakening DXDX, copyright Zergy 2019, pour l'expression. Hein. Mais on va commencer tout de suite par les restes du monde, c'est-à-dire... les quelques événements un petit peu marquants du monde du jeu vidéo qui ont eu lieu ces derniers... dernières... heures...
dernière quinzaine.
Dernière quinzaine. Dans le chat, on nous dit onk, et je réponds onk onk.
Onk onk.
Nous ne parlerons pas tout de suite de ce fabuleux jeu d'infiltration
dont on ne connaît pas le titre.
Dont on ne connaît pas le titre. titre inconnu de loi. Voilà, qui a l'air d'être assez énorme, mais voilà, on en parlera peut-être un petit peu la semaine prochaine, si on a le temps, parce que nous sommes toujours dans le tunnel, hein, je rappelle, hein, c'est... Voilà, moi je me suis dit, au tout début octobre, ça y est, le tunnel est enfin terminé, boum, j'ai remis 100 balles dans des jeux, hein.
C'est bon, les pâtes, hein.
Ouais,
Alors, j'ai une petite recette de pâte au pesto, là, vous m'en tirez des nouvelles, là.
Pâte au pesto, putain, pâte au ketchup, mec, j'ai pas les moyens pour le pesto.
Ah, c'est la fête, chez vous.
Ah bah...
Non mais on se respecte. On
mais j'ai pas mis 100 balles dans des jeux, moi.
Putain mais attends, c'est chaud quoi. On va commencer tout de suite par le joueur de Hearthstone. C'est bien Hearthstone.
Direct.
Hein. Ah ouais, oui. Moi je commence, j'attaque dans le dur, tu vois. Je me suis dit, sans intermédiaire quoi, boum. Qui s'est fait donc bannir par Blizzard d'un tournoi, c'est bien ça? C'est d'un tournoi ou c'est d'un jeu en...
Alors c'est même pas un tournoi, c'est la Ligue Pro de Hearthstone.
Oh putain,
tu as bien meublé, j'ai eu le temps de retrouver la news sur Gamekult. Donc le joueur hongkongais s'appelait Blitzchung, et il participait au Hearthstone Grandmaster, donc je crois que c'est la compétition officielle de Hearthstone où tu peux avoir de l'argent à la fin.
Ne pas confondre avec Tetris Grandmaster, hein, qui est pas du tout
bien
la
meilleur
même chose.
Jeu. Bim. Allez. Et en fait, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu l'actualité qu'en ce moment à Hong Kong, ils ont de nombreuses manifestations qui les opposent au gouvernement chinois qui a lancé une loi d'extradition, enfin qui veut faire une loi d'extradition des criminels de Hong Kong vers la Chine, ce qui priverait Hong Kong de son indépendance judiciaire vis-à-vis de la Chine qu'elle est censée avoir. Parce que je rappelle que même si Hong Kong fait partie de la Chine, ils restent encore dans leur petite bulle d'anciennes colonies britanniques.
Hong Kong a été rétrocédé par les Britanniques à la Chine il y a
20 ans, à peu près.
Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années.
Et une vingtaine d'années.
Et en fait, Hong Kong a conservé un statut de genre territoire autonome rattaché à la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont un statut très 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 bâtard, comme certains territoires d'outre-mer en France qui ont un statut un peu bâtard comme ça, la Micronésie par exemple, qui a sa propre assemblée, son propre parlement, et qui est donc en réalité un territoire autonome rattaché à la France. C'est un peu compliqué.
Voilà.
Hong Kong a le même genre de statut très très bâtard et un peu indéterminé.
Voilà, et du coup en ce moment donc il y a des révolutions, enfin des manifestations à Hong Kong assez similaires à ce qu'on a pu connaître avec les gilets jaunes, parce qu'on connaît encore un peu avec les gilets jaunes d'ailleurs, parce que c'est toujours en cours en France, et du coup ce joueur hongkongais a montré durant la compétition son soutien aux manifestants hongkongais avec en reprenant le slogan du manifestant qui est Libérons Hong Kong, une révolution de notre temps. Durant le stream, ce qui apparemment a posé un petit peu problème à Blizzard. Donc, qu'est-ce que je peux lire là? Donc, en gros, apparemment, sa chaîne Twitch a été supprimée. Il s'est fait dégager du stream. Tous les gains qu'il aurait pu avoir durant la compétition lui ont été retirés et il est banni d'un an pendant un an de la compétition.
Putain, la vache, c'est raide quand même.
Eh, mais d'où Twitch met son grain là-dedans?
Mais en fait, la problématique là-derrière, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, la saison 23... Oui, pardon.
J'ai mal lu la phrase, c'est la séquence qui a été supprimée de la chaîne Twitch de Blizzard.
D'accord.
Voilà, okay. Je me disais, ça me paraissait bizarre qu'ils aient pu fermer une chaîne Twitch.
Je pense qu'ils en seraient capables.
Oui, mais pour le coup, je pense que ce serait dans des cas beaucoup plus problématiques. Voilà. Donc le mec assume complètement ce qu'il a fait. Hein.
Bah en même temps, je veux dire, je suis à sa place. Ça dépasse un tout petit peu le comment dire la petitesse d'une compétition de Hearthstone même à ce niveau-là.
Ouais non clairement. Mais surtout ce qui est important, c'est que t'as une entreprise comme Blizzard qui reste une entreprise internationale. Qui pour enfin pourrait aller dans le sens d'un pays avec qui elle commerce, parce que il y a beaucoup d'apparemment Blizzard fait pas mal d'argent en Chine très probablement avec Hearthstone ou Overwatch d'ailleurs, et probablement Diablo aussi, et du coup est prêt à aller dans le sens d'un gouvernement qui est la Chine. Qui a quand même ses dérives autoritaires comme on peut le voir en ce moment à Hong Kong, plutôt que d'être neutre dans l'histoire et dire c'est son problème, c'est pas le nôtre quoi.
Ça rappelle quand même alors, deux petites choses sur le sujet, et après je laisse la parole à qui veut réagir. La première chose, c'est la saison 23 ou 24 de South Park est en train d'être diffusée, et un des tout derniers épisodes concerne justement le fait que, ah non, ça on va le censurer sinon on n'arrivera jamais à percer sur le marché chinois. Voilà, comme d'habitude, South Park, très exagéré et très juste à la fois. Je vous le recommande, c'est... Bon, voilà, c'est South Park.
T'as vu leur réaction après le tollé de la Chine?
Non.
Désolé, nous aussi on préfère l'argent à la liberté et la démocratie.
Bref, c'est quand même, voilà. Et la deuxième réaction, c'est que ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé lors notamment des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1982.
Le gant, c'est ça?
Il me semble. Où effectivement tous les athlètes noirs américains portaient un gant noir à la main gauche et avaient en général le poing levé pour protester contre un certain nombre de droits civiques bafoués, me semble-t-il.
84.
Donc voilà, le fait que dans des compétitions, alors là c'est de l'e-sport, c'est pas du sport, mais que dans des compétitions, des sportifs affichent des opinions politiques, ça n'a rien de nouveau.
Et d'ailleurs, l'histoire que tu racontes, alors moi je n'ai pas donné l'époque, mais de ce que j'ai pu en lire, ça n'a pas été très très bien apprécié.
Ça a été extrêmement mal pris, c'est-à-dire que les autorités américaines l'ont très mal pris. Les soviétiques qui boycottaient déjà les Jeux Olympiques pour je ne sais plus quelle raison.
Parce qu'ils étaient soviétiques.
Donc, mais c'est le coup suivant, je sais plus, les Jeux Olympiques suivants qui ont été en URSS ou les Jeux Olympiques d'avant qui étaient en URSS, le même genre de protestation a été très mal vu là-bas évidemment aussi. Enfin, ça a été très mal vu. Il faut voir que les athlètes qui ont fait ça en 84, ils n'ont pas fait une longue carrière derrière. Hein. Parce que voilà, mais ils avaient quelque chose à dire, ils l'ont dit. Et à un moment, il faut avoir le courage de ses opinions. Je vous rappelle au tout début du mandat de Trump.
Ça a fait bouger un peu les choses aussi.
Tout à fait, où pareil, les athlètes noirs américains de la NFL avaient, enfin pas tous évidemment, mais un certain nombre, posé un genou à terre lors de l'hymne national pour protester contre effectivement un certain nombre de dérives qu'il considérait comme autoritaires ou un certain nombre de choses qu'il considérait comme pas normales, notamment dans le système judiciaire américain.
D'ailleurs, c'est marrant que tu parles du sport, puisque dans le... Je vous conseille de le lire, d'ailleurs, le petit article sur Game Cult, qui est un petit résumé sympathique et qui fait aussi le parallèle avec ce qui s'est passé en NBA il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est le directeur général des Rockets de Houston, donc équipe de basketball, qui avait tweeté, avant de l'effacer, le même message de soutien aux Hongkongais. Ce qui a posé pas mal de problèmes, vu que a priori la NBA en ce moment elle est en négociation avec la Chine pour se faire de la maille.
D'où l'épisode de South Park.
Voilà, non, mais ça devient assez intéressant, mais pour le coup c'est bien de se rendre compte qu'aussi dans l'e-sport il y a des prises de position comme ça qui peuvent arriver.
Voilà, mais c'est l'histoire se déroule devant nos yeux, c'est toujours pareil.
Et ça nous rappelle aussi que nos chers développeurs de jeux vidéo sont quand même plus là pour faire de la thune que pour soutenir des nobles causes.
Par contre, le Dojo Bar, lui, soutient pleinement et sans problème les manifestants de Hong Kong. Allez les gars, vous allez y arriver. D'ailleurs, je vous recommande très chaudement, il y a un article, je crois, du Monde, qui doit être en accès payant maintenant, mais peut-être qu'on peut retrouver des copies quelque part, qui expliquait les différentes stratégies des manifestants hongkongais pour lutter pacifiquement contre les forces de l'ordre. Avec des choses assez énormes, comme par exemple, ils ont un cône de signalisation qu'ils utilisent pour éteindre les grenades lacrymogènes. Donc les mecs posent le cône sur la grenade, ils bouchent le trou, et puis en fait la grenade finit par s'éteindre parce qu'elle a plus d'air. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, très très rigolotes, de stratégies qu'utilisent les manifestants hongkongais pour pouvoir continuer à communiquer, pour pouvoir bloquer les motards. Les motards qui les poursuivraient et ainsi de suite, donc c'est quand même très 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 rigolo.
Alors je sais pas si c'est pacifiste, mais apparemment ils ont fait une catapulte récemment, je trouve ça très très drôle.
Non mais voilà,
Minecraft dans l'esprit.
Voilà, donc bon, voilà, à titre personnel, soutien Hong Kong, le Dojo Bar soutient Hong Kong aussi, parce que merde, nous, voilà, et Blizzard, enfin Activision foutre. Blizzard, comme d'habitude, allez vous faire foutre.
C'est vrai, on a oublié de faire après.
Nous on s'en fout, mais... on a rien à gagner, donc voilà.
C'est un peu ça, et de toute façon, nous...
Je veux dire, 1,5 milliard de personnes qui pourraient acheter des lootbox, forcément tu baisses ton froc. Hein.
Ça y est. Bon d'ailleurs, à propos de lootbox, voilà.
On va
enchaîner. C'est parfait, la transition est toute faite. Le scan de lootbox dans Counter-Strike Global. Alors c'est Global Offense, Global Offensive.
Global Offensive, voilà. Global Offense, c'est ce que c'est.
Global Offense, oui, parce que voilà.
Non, ça c'est Trump.
Donc maintenant, quand tu habites en France et que tu joues à Counter-Strike Global Offensive, et que tu achètes une lootbox, puisque
ce sont des lootbox où
tu la gagnes, tu peux la scanner pour savoir ce qu'il y a dedans avant de l'ouvrir.
Et payer.
Tu dois la scanner.
Tu dois la scanner avant de payer.
Le génie de la chose. C'est parce que vu que tu sais ce qui est dedans, ce n'est plus une surprise.
Donc ce n'est plus un mécanisme de surprise.
Ouais. Et là où c'est ultra pute, c'est que mettons que tu as récupéré plusieurs boîtes ou tu en as acheté plusieurs. Donc tu scannes la première pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est plus une surprise. L'objet te plaît ou te plaît pas, mais si tu veux ouvrir la deuxième caisse, enfin si tu veux scanner la deuxième caisse, du coup tu es obligé d'acheter le contenu de la première.
Donc en fait ça reste un jeu d'argent. Enfin ça reste un casino.
Petite indirection, mais du coup est-ce qu'ils essayent de passer entre les mailles de la législation qui se durcit sur le sujet? Je pense que oui. Est-ce que ça passera? Je sais pas.
C'est pas les seuls qui sont en train de chier dans leur froc et essayer de contourner le truc.
Non, je suis d'accord avec Zergy, hein, c'est pas les seuls qui doivent être en train de commencer à chier dans leur froc.
Coucou Electronic Arts, qui a sorti un FIFA 2020 sur Switch où il y a juste le fut qui marche. Le reste, c'est bugué.
On reparle du Mario Kart Tour ou pas?
Oui.
Mais je sens quand même cette... Enfin, ça fait un moment qu'on dénonce cette tendance très très malsaine à la lootbox et effectivement au truc qui est en train de passer du jeu vidéo, du jeu divertissement, au jeu...
Mercantile,
voilà, c'est-à-dire jeu d'argent, casino, voilà, addiction.
Bah surtout un game design où le but c'est de te faire payer à la fin, hein.
Il y a sur certains jeux, je trouve que ça reste raisonnable dans le sens où c'est que des trucs cosmétiques, c'est vraiment optionnel... Tu peux le récupérer sans payer, donc c'est... On ne t'encourage pas à sortir le porte-monnaie, tu le sors si t'as envie de le sortir, et ça reste raisonnable. Je pense à des jeux comme League of Legends, ou des choses comme ça, où t'es vraiment pas...
Du skin, ouais.
Voilà, t'es vraiment pas du tout obligé de... Comment dire, de payer pour ce genre de choses-là. Tu le fais parce que t'as envie de le faire, parce que t'as envie d'avoir un costume cool et tout ça. Et je trouve ça... un peu malsain quand même sur le principe. mais raisonnablement malsain, je veux dire. On n'est pas dans le truc où l'objectif, c'est d'avoir un mécanisme addictif qui, comme dans un casino, va te forcer à payer, sachant qu'en plus, là, c'est le casino à la maison, c'est-à-dire que tu peux même pas te dire « je me fais interdire de casino pour pas être soumis à ça ».
Oui, non, puis en plus, ces casinos, ils ont aussi des limitations au moment...
Oui, mais même, enfin, je veux dire, si vraiment... ça existe, hein, tu peux te faire interdire de casino. Hein.
Tu peux volontairement
demander à être interdit de casino. Et... bon, mais je veux dire, ça rejoint le... Je sais plus comment ça s'appelait, le Rapido. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là.
Le jeu de grattage, c'est ça ?
Alors, c'est pas un jeu de grattage, c'est... On m'a appris ça il y a pas longtemps, j'ai halluciné, je pensais pas que ça existait.
Ah, l'auto électronique.
C'est une espèce de l'auto électronique, mais qui... où il y a 10 tirages par heure, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais.
Donc c'est juste atroce comme truc. T'as des mecs qui sont dans un bar et toute la journée, alors tiens, bah, ils vont mettre 10 balles et puis ils vont se faire un rapido et puis bah, s'ils gagnent, ils vont les boire les 10 balles et puis s'ils gagnent pas, bah, ils remettront 10 balles dans une heure, quoi. Des trucs un peu hallucinants, je trouve, enfin moi.
Ouais, j'en avais entendu parler de ça aussi, au point où t'avais les PMU qui étaient envahis par les mecs qui étaient là pour jouer, quoi.
Ouais, c'est ça, non mais je trouve ça hallucinant qu'on autorise ce genre de choses là, mais c'est l'addiction au jeu, c'est un vrai truc, hein, c'est pas une blague. Et je ne comprends pas qu'avec l'argel qui a fait chier tout le monde avec les histoires de jeux en ligne et de paris en ligne et tout ça, je comprends pas qu'il y ait pas un tout petit peu plus de régulation sur le sujet.
Ouais, ça s'explique, hein. La taxe que tu perçois.
Non mais évidemment. Mais tu sais qu'aujourd'hui, ce que craint le plus en fait Electronic Arts, Activision et tout ça, c'est que leurs jeux soient classés dans les jeux d'argent et le Parlement américain, enfin les deux chambres américaines,
ouais, je pense que ça inclut,
sont en train d'y réfléchir sérieusement, et là ça voudrait dire par exemple qu'il y aurait des jeux qui seraient interdits à la vente dans certains états, parce qu'il y a des états dans lesquels les jeux d'argent sont interdits. Mm-hmm. T'as effectivement des licences à payer, sachant que le moins cher ce serait le Nevada, donc ça veut dire que globalement tu pourrais jouer à FIFA Ultimate Team, mais seulement dans un casino à Las Vegas. Ça peut devenir intéressant, mais...
La vente aux mineurs qui devient complètement interdite.
Complètement, non mais c'est ça, quoi, c'est vraiment... Bref. Allez, les deux petits derniers pour la route. Enfin, le multi en ligne avec tes potes sur Super Mario Maker 2.
Le futur.
Le futur, mais avec 3 mois de retard. Alors, j'ai pas essayé, visiblement, la plupart des retours qu'on a, c'est quand même vachement plus agréable de jouer avec des potes.
Est-ce que ça rame toujours autant?
Ça, je ne sais pas. Chaque fois que j'ai joué en multi à Super Mario Maker 2, c'était sur mon canapé, donc pas de problème particulier à signaler. Et enfin, le petit dernier, Sony ouvre enfin les vannes du crossplay, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des jeux où il y a du crossplay, PS4, Xbox One, Switch, PC même. Jusqu'à présent, Sony, c'était ceux qui restaient un petit peu dans leur tour d'ivoire parce que bah, c'est les leaders du marché, donc ils en avaient un peu rien à foutre que les autres veuillent faire du crossplay. Évidemment, ceux qui sont un peu à la traîne, à savoir Nintendo et Microsoft, eux, ça les intéresse vachement de faire du crossplay parce que ça permet d'aller dire, bah voyez, c'est quand même mieux que chez le concurrent. Bon, Sony s'y met enfin, je sais pas ce qu'il faut y voir derrière, ce sera pas pour tous les jeux, ça va forcément être long et compliqué.
Non, c'est un premier pas, c'est cool.
C'est un premier pas, je trouve ça très bien. Ce qui est ennuyeux pour tout le monde, c'est que finalement, il y a de moins en moins de différence entre avoir une PS4, une Xbox One ou une Switch pour certains jeux.
Bah, la Switch, tu peux jouer partout, donc elle est là, la différence.
Donc Nintendo win, comme d'habitude. Mais voilà, bon, bref. C'est quand même un premier pas qui est intéressant. Ça fait plusieurs mois, je pense, on peut le dire, que on se disait que ça allait finir par arriver, puis là, bah oui. Ça arrive.
La paix.
La paix entre les trois constructeurs. La guerre des consoles est finie. Merde. On va vraiment se faire chier. Bref.
Qui on va troller maintenant? Ah oui, Sega.
Il ne reste plus que Sega à troller, c'est quand même la tristesse.
On n'a pas le droit de tirer au bazooka sur l'ambulance.
C'est un peu ça. Non mais voilà, comme disait quelqu'un que je connais bien, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui niquer sa mère à l'ambulance. Bref. Donc on a toujours Activision et Electronic Arts quand même, enfin, ça, faut pas oublier, là,
ça,
quand même.
Ça c'est le marronnier.
Ouais. Il nous reste quand même toujours 2-3 trucs. Bref, nous allons marquer une première pause musicale, et on va s'écouter... Alors est-ce que vous voulez écouter la version 8 bits ou la version toute nouvelle?
Ah non, on garde le meilleur pour la fin.
La version nouvelle pour la fin?
Ouais.
Ouais.
Allez. Quand on parlera du remake.
Quand on parlera du remake.
De toute façon, on va parler d'une vieillerie, donc ça va.
Enfin, d'une vieillerie, oh là là, tout de suite.
C'est un petit peu le dojo bar des jeux de daron là.
C'est un peu ça, ouais. Faut ça, quand même reconnaître, c'est un peu ça. Bref, donc nous allons marquer une première petite pause musicale. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Total 8, qui en fait est la montagne. Alors, je sais plus comment c'est
la
en français.
La cordillère tartare.
La cordillère tartare. Je suis désolé, j'ai fait une grande partie du jeu en anglais encore une fois, donc peut-être quelques références.
J'adore ce nom.
Je trouve ça assez énorme. Les noms de la version française sont quand même assez délicieux. C'est pas aussi subtil. La prairie Oukoukou, par exemple, je trouvais ça assez énorme. Bref, donc là, c'est la musique de la Cordillère Tartare, qui est un très très grand classique de Legend of Zelda Link's Awakening. On va s'écouter la version... Alors merde, c'est toujours pas la bonne, attendez. j'ai confondu.
Non, je mais connaissais attends, la version Game Boy, mais ah merde, toujours pas la bonne.
Ah merde, toujours pas la bonne, tu connais pas celle-là? Putain, non. Pourtant... Alors attends, normalement c'est celle-là. J'espère que je me suis pas gouré. Non, c'est celle-là, voilà. Alors, pourquoi ce morceau-là? Il y a deux raisons très simples. Alors, il y a des morceaux plus intéressants. On parlait de la musique de Crédit en off avant de commencer l'émission, qui est vraiment très très bien. La problématique, c'est qu'en fait, les boucles de la version Game Boy sont toujours très très courtes. C'est en général 1 minute 45 secondes, rarement plus. Du coup, c'est quand même compliqué à passer en radio. Donc voilà, Total 8, l'avantage, c'est que c'est une des boucles les plus longues de la BO originale. Et du coup, ça permet quand même d'aller faire un truc un peu intéressant. Voilà. Ça dure à peu près 3 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc on va parler de... Alors attendez, Dragon Quest 11S, les combattants de la Destinée édition ultime.
Voilà.
Circus édition Black Box Plus. Voilà. Alors visiblement, ça sent quand même bon le réchauffé.
Hein, moi c'est ce
le
que...
Classique. Disons que Dragon Quest, c'est pas une série qui évolue énormément en termes de mécanique.
Voilà, bon alors, ce qu'on m'a dit qu'il fallait dire en introduction, c'est voilà, effectivement un prétendant au titre le plus long de jeu vidéo, sachant que bon, il détrônera pas un certain nombre de gens.
Non, mais Final Fantasy, je te regarde. Jaquette, quoi.
Voilà, pour c'est pas mal. Et c'est surtout le tout premier jeu annoncé sur Switch à l'époque NX, c'est-à-dire que Square Enix a annoncé son jeu sur NX.
Alors qu'on savait pas à quoi la console ressemblait.
LOL. Je suis assez content du jeu de mots, si ça m'a fait exprès.
Non putain,
donc,
oui.
Donc excusez-moi. Donc c'est le premier jeu qui a été annoncé sur Switch, sachant qu'il est déjà sorti il y a fort longtemps sur 3DS et PS4.
2017 au Japon pour la 3DS et la PS4, 2018 en Europe et aux États-Unis pour la version PS4 et la version PC.
Il n'y a pas de version 3DS en Europe et aux États-Unis ?
Non, et non.
Ouh, ça c'est une information intéressante que je n'avais pas. Donc je tiens quand même à préciser que personne n'a fini le jeu. Je pense que le jeu fait genre facile une centaine d'heures.
Apparemment c'est 70 heures avec le... Si tu veux faire la vraie fin du jeu.
Ok.
Alors 70 heures sans prendre son temps du coup, enfin en prenant son temps quoi.
Ouais, je crois que c'est... Bon, après le jeu pour l'instant est relativement linéaire et en ligne droite, donc je saurais pas dire s'il y a des à côté ou pas pour l'instant.
D'accord. Et donc du coup, ça sort enfin sur Switch. Qu'est-ce qu'elle a cette version-là de plus par rapport à la version PS4? Elle rame.
Rien. Ouais. Elle a le mode 2D. Alors, parce que pour parler un petit peu de Dragon Quest 11, alors déjà normalement Dragon Quest ne sort que sur une seule console, celle qui se vend le plus au Japon au moment où il est annoncé. Donc c'est pour ça que par exemple le 10 c'est un MMO est sorti sur Wii, contre, alors ça n'avait absolument aucun sens. Et du coup, quand le jeu a été annoncé, je pense que c'était en 2015 ou en 2016, il l'avait annoncé sur trois supports, qui étaient la PS4, la 3DS, deux supports avec des capacités très très différentes, et la NX.
Je vois pas ce que tu veux dire, hein. Franchement, j'ai vu un comparatif de Digital Foundry 3DS contre PS4 Pro.
Attends, t'as jamais vu Uncharted sur 3DS?
Oh putain.
Moi non plus.
Non mais je pense que c'est jouable. Non, tu peux faire un petit effort. Bah, il y a des mecs qui ont fait tourner Doom sur Switch, hein, je suis désolé, mais voilà, just saying.
Donc en fait, c'est un jeu qui a déjà, dont le projet de base est assez, assez fou, puisque l'idée c'est de faire le jeu sur deux supports différents. Donc on pourrait se dire avec deux modes de représentation différents, et ben même pas, parce que sur 3DS, il y a deux modes de représentation différents. Donc on a le mode super beau en 3D HD qui est sur PS4, qui est la même que sur version Switch. On a le mode 2D qui est disponible sur Switch, et on a un mode 3DSD qui est l'équivalent de ce que proposait Dragon Quest 7 sur 3DS ou le 9 sur DS, avec des personnages en SD tout mignons. Donc déjà, on a quand même un projet genre un peu anniversaire, parce que c'est pour les 30 ans, où les mecs ont dit qu'ils allaient faire trois fois le même jeu. Parce que c'est ça, globalement.
Bah, au moins graphiquement, c'est effectivement, t'as trois moteurs de rendu complètement différents, puisque t'as le traditionnel 2D. Ça ressemble pratiquement au le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Halo Anniversary Edition sur Xbox One, où en une seule touche, en fait, tu pouvais passer du rendu Xbox d'origine au rendu Xbox One remasterisé, et ça ressemble quasiment à ça, cette histoire de Dragon Quest.
Il y a le Wonder Boy aussi qui est sorti au début de Switch. Ouais.
Oui. On revient tout de suite sur le changement de moteur pour la version Switch.
Vas-y.
Tu commences, Zergy.
Ben, je sais pas, mais le passage au mode 2D, je t'ai trouvé fastidieux. Du coup, je m'en sers pas.
Complètement. En fait, il faut passer par un point de sauvegarde qui te ramène au début du chapitre en cours, sachant que là où ça fait grave chier, c'est que t'as pas d'indication pour dire que le chapitre est terminé.
En fait, tu peux perdre 2 heures de progression.
Alors, c'est tu ça. Les perds pas, c'est des sauvegardes qui avancent en parallèle, en fait.
Putain, ça a l'air bordélique.
En fait, tu peux revenir facile 1 heure en arrière, alors que tu voulais juste voir à quoi la zone dans laquelle tu es ressemblait en 2D. Quoi.
C'est ça. Sachant que tu conserves ton XP, ton équipement et compagnie, hein, quand tu reviens en arrière.
Je crois que tu perds certains trucs, mais pas tout. Enfin,
peut-être les objets de quête importants.
Ouais. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il manque des infos. Tu sais pas combien de points de vie total ont tes personnages, donc quand tu veux jauger est-ce qu'il faut le soigner ou pas, c'est un peu plus dur. Enfin bon, il manque 2-3 trucs.
Ouais, le mode 2D, c'est le mode Dragon Quest à l'ancienne époque Super Nintendo. Hein.
Mais attends, à l'ancienne, il y avait quand même des points de vie, non? Parce que...
Oui, mais...
Oui, non, mais si tu veux, tu n'as pas le nombre de points de vie total qu'a ton personnage. Tu sais qu'il lui reste 10 points de vie, mais tu sais pas sur combien.
Sur combien? Ah oui, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oh oui, putain, ça a l'air d'être bordélique.
Non, mais ils l'ont vraiment refait. Enfin, quand tu passes en 2D, t'es vraiment à l'ancienne. Ils ont pris des petits gimmicks à la con. Ton perso qui va plus vite en diagonale, ça me fait rigoler.
D'ailleurs, il y a des trucs assez intéressants, qui a été beaucoup relevé, c'est que le mode 2D, par contre, comme t'as moins de possibilités, notamment en termes de taille des cartes, souvent les cartes sont beaucoup, beaucoup plus petites et tu vas beaucoup plus vite à jouer en 2D, en fait.
Du coup, le conseil mais que j'aurais...
Alors attendez, c'est le... On est d'accord que c'est quand même le même jeu, le même scénario, les mêmes monstres...
Les mêmes personnages, les mêmes compétences, les mêmes monstres.
Les zones sont plus petites.
Il y a deux, trois détails qui changent dans les zones. Mais globalement, tu trouveras les mêmes choses. Mais d'accord, en 2D. Fait,
c'est un peu bâtard, donc, comme... Enfin, c'est un peu curieux.
C'est un des arguments pour mettre le S à côté du titre.
Je pense qu'aussi ça vient du fait que Dragon Quest c'est un jeu qui est vraiment un jeu à papa, dans le sens où c'est un jeu qui en 30 ans a très très peu évolué, et je pense que le mode 2D existe pour tous ces quarantenaires japonais qui n'ont pas de PS4, qui avaient juste une 3DS et qui voulaient pouvoir jouer dans les transports pour aller à leur boulot dans le centre de Tokyo. Je pense que c'est ça, hein. Mais ça témoigne aussi du fait que Dragon Quest c'est un jeu qui est très traditionnel, parce que c'est toujours les trois mêmes mecs qui bossent dessus, par exemple. Et ce mode 2D existe principalement pour ça, à mon avis, hein. C'est le mode vraiment nostalgique à fond. D'ailleurs, c'est le seul mode de jeu où tu peux avoir accès à une zone spéciale qui te permet de visiter les anciens épisodes de Dragon Quest.
Yes, et du coup, mon conseil, ce serait de faire le jeu en 3D classique sans s'embêter avec le mode 2D. Parce que justement, les zones que tu visites.
Ouais, elles sont en 2D obligatoires.
Exactement. Exactement. Donc comme ça, ça te laisse la possibilité de voir un peu les deux sans te prendre la tête avec les histoires de double sauvegarde.
Et d'ailleurs, elles sont en 2D obligatoires même pour le jeu qui était en 3D.
What?
C'est-à-dire qu'à partir du 7, Dragon Quest c'est en 3D, bah les zones sont quand même en 2D.
Putain, mais ça a l'air d'être vraiment le bordel, votre truc. Hein.
C'est pas tant que ça.
En plus des histoires de 2D, 3D, machin, 40 styles différents.
Honnêtement, je recommande plus de jouer en 3D, parce que pour avoir vu 2-3 scènes cinématiques en 2D, j'ai vraiment l'impression qu'elles ont plus été pensées pour de la 3D, avec des personnages qui bougent, et des bons petits mouvements de caméra, et parfois même des doubleurs, enfin, en tout cas dans le cas de la version européenne des doubleurs. Plutôt que la version 2D. Après, ça peut être un bon trip quand on est un fan un peu à l'ancienne Dragon Quest. Moi, c'est pas spécialement mon cas. J'ai connu vraiment la série avec l'épisode 3D, donc je recommande plus de jouer en 3D, qui est aussi un jeu un peu moins abrupt, quoi. Enfin, c'est un peu mieux travaillé. Les menus sont vraiment. Les menus, c'est des cases noires, hein, globalement.
C'est ça, le mode 2D, l'interface, elle est à l'ancienne aussi.
Alors oui, c'est le truc où t'as parler, prendre, saisir en fait l'écran et puis voilà quoi.
Ça, si vous avez joué à Earthbound dans votre vie, c'est à peu près la même chose, les menus. Je ne le recommande pas.
Austérité, bonjour.
Exactement. Plus austère que François Fillon, tu meurs.
Il y a Merkel.
Putain, ça taille.
Merkel. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a les deux modes, c'est sympa à tester, mais je recommande plus le mode 3D pour découvrir le jeu. Surtout qu'en plus, t'as tous les designs de Toriyama qui sont vraiment bien modélisés. Et moi qui aime bien son style, j'avoue que c'est vraiment super sympa de les voir bouger en 3D avec des jolies animations, dans des décors qui sont quand même plutôt jolis.
Le bestiaire, il est chouette aussi.
Ouais, c'est plus le bestiaire que le design des personnages en vrai. Hein, le grand apport de Toriyama à Dragon Quest.
Bah moi j'ai déjà vu l'intégrale de Dragon Ball Z, donc je m'en tape.
Voilà, c'est un peu ça.
Bon, en dehors de ça, pour ceux qui ont un petit peu avancé, parce que là, Zergy, une quinzaine d'heures de jeu, il me semble que tout le monde en est à peu près...
Doit être à peu près au même point, moi je viens d'avoir le bateau.
Ah bah je vais arriver au bateau, il faut que je traverse la forêt.
Je suis en train d'y aller.
Ouais. Voilà, donc vous êtes tous à peu près au bateau, alors je sais pas ce que ça représente, comme voilà. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de l'histoire, la progression, le système de jeu? Alors je sais que ça peut bouger depuis 30 ans, donc si vous me dites juste c'est pareil que Dragon Quest X, c'est pareil que Dragon Quest IX, je l'entends. Mais est-ce qu'il y a quand même des petites choses un petit peu plus subtiles que ça, ou est-ce que c'est vraiment, bon, ben voilà, c'est Dragon Quest, quoi.
Tour par tour, ultra classique.
Ouais.
Chara-design à chier.
Non.
Tour par tour, c'est vraiment la base de la base, quoi. Si tu prends le RPG japonais au tour par tour et tu retires d'absolument tout sur Dragon Quest. Et il y a de l'argent qui vient de tomber, j'ai entendu des sous.
Ouais.
Alors ça, c'est ce qui se passe quand tu tues des monstres. Qui rapporte de l'XP et des pièces d'or.
Attendez, tuer des monstres rapporte de l'XP? Mais c'est complètement fou comme
concept. Incroyable, n'est-ce pas? Et puis les personnages peuvent utiliser des attaques ou des aptitudes ou des sorts qu'ils apprendront en montant de niveau,
mais
comme des Pokémon.
Peuvent-ils utiliser des défenses?
Oui.
Ah non, merde. Oui.
Oui.
Est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles on croise des autochtones?
Oui.
Typiques,
ah oui,
qui ont parfois
d'ailleurs
des échoppes où l'on peut acheter des potions et d'autres items intéressants.
Il y a même une banque.
Il y a même une banque, et il y a même une auberge pour se reposer et gagner ses PV. Incroyable, hein.
Mais c'est complètement fou. Mais quel est ce type de jeu complètement hallucinant?
C'est Dragon Quest 1.
Ah mais en fait c'est ça, en fait c'est Dragon Quest X1S, les combattants de la destinée, édition ultime, c'est ça,
ça. Ouais, franchement Dragon Quest c'est vraiment le RPG japonais dans son aspect le plus traditionnel et le plus classique. Limite j'ai trouvé ça miraculeux qu'on ait une espèce de système
de
forge et de gain de compétences avec l'hexagramme, qui n'était même pas dans le 8 pour le coup.
Alors je vais me permettre de faire un... Dragon Quest 11, ce jeu entre nature et tradition,
entre modernité et tradition.
voilà, très bien. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur Dragon Quest 11.
Si, moi j'ai envie de parler un peu du scénario.
Voilà, c'est le genre de choses que j'avais envie d'entendre.
Alors, pour le coup, Dragon Quest, c'est pas... Alors, encore une fois, Dragon Quest, c'est relativement simple, mais souvent considéré comme plutôt bien raconté, il y a souvent des petits gimmicks. Par exemple, l'épisode 5, c'est... ton héros, tu le suis de l'enfance jusqu'à ce qu'il soit parent, tu vois. Ça se fait sur plusieurs étapes de sa vie. Là, cet épisode, c'est une espèce d'un peu de twist sur le côté le héros qui va sauver le monde, puisque tu découvres dès le début du jeu que ton personnage, c'est le héros, hein, le héros qui doit sauver l'univers, l'éclairer en français. Et en fait, quand tu te rends dans le premier royaume pour rencontrer le roi et qu'on te dit, hey, il va te filer un coup de main, en fait, le mec te dit, et en fait, je vais juste te foutre en tôle parce que en fait, tu es l'engeance du démon. Texto. Et du coup,
oui, ça la fout mal quand même.
Voilà.
Mais, tu démarres alors, bien.
Du coup, en fait, là où j'en suis dans le jeu, effectivement, on ne sait toujours pas pourquoi il a dit ça et si c'est vrai ou non. J'ai quelques brides comme quoi, à cause du héros, un royaume aurait été détruit. Donc, j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. C'est un petit peu la base du scénario qui raconte finalement après le voyage de ce héros pour essayer de comprendre comment sauver le monde et compagnie. Donc ça reste, c'est la partie un petit peu plus classique. Il va avoir des compagnons, bien entendu.
Krillin, Tortue Géniale.
Non, tu as le voleur qui est en Super Saiyan, God Super Saiyan.
Yamcha.
Tu as la gamine obligatoire, qui en fait n'est pas une gamine, mais une adulte dont le corps a rajeuni.
La réincarnation d'une princesse d'une civilisation disparue.
Non, mais elle est très très drôle. Elle est très très drôle.
Et tu as aussi le mec efféminé qui bosse dans un cirque.
Qui est blond et qui est donc le sale traître.
Non, il est brun.
Et donc, c'est pas le sale traître.
Mais qui balance des mon chou et des mon chéri en permanence.
Qui est donc le sale traître. Non.
Possible que ce soit le traître.
Il a l'air d'avoir un passé sympa, celui-là aussi.
Il y a aussi l'ami d'enfance avec un passé torturé qui a une cicatrice sur le. Ah merde.
Non, mais il y a un vieux.
Original, il y a.
Oh, il est sur la jaquette.
Oui, d'ailleurs, c'est lui qui te fait les résumés d'histoire quand tu démarres ta partie.
Ah, c'est cool ça aussi.
Qu'on appellera vieux man.
Vieux man. Vieux man. Ah, c'est pour le coup pour l'instant la narration est quand même super classique, mais le petit côté tu es possiblement un héros déchu, c'est assez intéressant. J'attends de voir ce que ça va donner, si ça va vraiment être développé par la suite ou si c'était juste un gimmick de début d'histoire.
Alors, a priori ça finit par partir en live et devenir vraiment prenant.
Ok, mais voilà, ça c'est le petit truc, et c'est aussi un jeu qui est très nostalgique. Je trouve. Bah le titre japonais, c'est La Recherche du Temps Perdu.
Alors attends, donc du coup c'est
Dragon Quest. Ça parle au joueur qui a passé 100 heures dessus, c'est ça.
C'est Dragon Quest X1S, les combattants de la destinée à la recherche du temps perdu, édition ultime, c'est bien ça.
C'est ça. Non bah du coup il y a un petit côté très nostalgique parce qu'assez tôt dans le jeu en fait le héros se retrouve projeté dans le passé où il va rencontrer il va te rencontrer déjà lui pendant l'enfance et d'autres personnages. Et il y a toute une histoire avec l'Yggdrasil, qui est l'arbre monde, dont les racines en fait sont un petit peu partout sur le territoire du jeu. Et quand tu touches les racines, en fait, le héros peut voir le passé. Donc il y a aussi ce côté un petit peu nostalgique en fait dans l'approche qu'a le jeu de son scénario.
D'accord. Est-ce que quelqu'un a autre chose à rajouter ou est-ce qu'on peut clôturer là-dessus sur Dragon Quest 11, sachant que
on a les musiques symphoniques.
Ouais.
En ça, DLC. C'est bien.
Non non. Tu as dans le menu, tu choisis à tout moment de passer en symphonique ou en midi.
Alors par contre, les musiques sont pas folles, je trouve.
Moi, je les aime bien. Enfin, le thème de l'église, il est très très beau pour le coup.
Enfin, le thème des combats, au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Le thème de la carte du monde est pas terrible, hein, par contre.
JBC qui nous dit « Ah oui, Proust, je connais
!» C'est ça, en plus. Hein.
On remercie JBC pour cette magnifique remarque. Bref.
Et le dernier truc que je voulais, c'est la traduction FR, je la trouve géniale. Je sais pas si c'était déjà présent, je pense que oui, hein, mais dans l'original. Le premier village qu'on visite, est-ce que vous avez percuté que tous les PNJ parlent en haïku ?
Oui, mais je crois que c'est pas dans la version japonaise.
Ben c'est génial.
Pas dans la version japonaise, ils ont genre des accents, des patois locaux.
D'accord.
Du Japon. Et pour les versions européennes, les versions étrangères, ils ont mis des espèces d'accents ou des façons de parler un peu étranges.
Ou un gimmick particulier par village, quelque chose comme
ça. En fait, dans le village où tu récupères le bateau, c'est une ville qui ressemble beaucoup à Venise, et du coup, tous les habitants placent régulièrement des mots en italien.
Ah bah voilà.
Ça devait être très drôle à traduire en italien.
Non, en italien ils l'ont pas. Enfin, ils font
en
comme
espagnol.
Ils ont espagnol ou en français, tu vois.
Ouais, non mais voilà, mais c'est comme les jeux où ça se passe en France et ça se passe à Sarcelles.
à Sartrouville comme Secret of Evermore.
Non, c'est Sarcelles. Hein.
C'est Sarcelles. Secret of Evermore,
non, c'est Sarcelles. Secret of Evermore, c'est pas du tout à Sarcelles, c'est à.
C'est pas Sarcelles.
Non, c'est pas Sarcelles.
C'est à Saint-Ouen.
Fous-toi de ma gueule.
C'est à Pontoise.
C'est à Pontoise, excusez-moi. C'est pas ça. C'est assez génial quand même.
Voilà,
c'est là que tu vois que La traduction n'avait rien à foutre, mais alors d'une force.
En même temps, le mec, dès le début du jeu, il disparaît dans un autre monde, alors...
Ouais, c'est vrai que ça a peu d'importance où il démarre, mais enfin bon, quand même. Bref.
Sarcelle.
Ça m'aurait bien fait triper, en vrai. Bref. Oui, la cité de la muette représente... Bon, bref, on va passer là-dessus.
Ouais. Bon, si vous voulez voir, la démo est sur l'eShop. Elle est plus longue que certains jeux complets.
Ouais, c'est ce que j'ai compris.
La démo fait 10 heures. C'est ça. On nous a dit à peu près 10 heures. Et en plus, tu peux garder ta sauvegarde de la démo pour continuer le vrai jeu. Ce qui est quand même drôlement agréable.
Bah, ce qui va plus mal, parce que se retaper 10 heures du début de Dragon Quest...
C'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant.
Mais c'est un jeu cool. Jouez-y si vous aimez bien les RPG un peu à l'ancienne. Et puis... Il a l'avantage de ne pas être trop prise de tête, donc ça se fait assez facilement.
Voilà, et eh ben Dragon Quest 11, peut-être qu'on en reparlera quand vous l'aurez fini, parce qu'après tout, il y aura peut-être des choses à redire. On ne sait
sachant,
pas.
Sachant que petit truc sympa, Square Enix a sorti les 3 premiers épisodes sur l'eShop.
Gratuitement ?
Non, payant, c'est Square Enix, mais alors.
Non, mais ça aurait pu être un bonus de précommande, un truc comme ça. Après tout, ça se faisait dans le temps.
Bah, d'ailleurs, dans la version japonaise du 11, quand tu terminais le jeu avec la vraie fin, tu avais en téléchargement le premier épisode de Dragon Quest.
Gratuitement. C'est sympa. Et ben voilà, ça c'est bien.
Mais a priori, ils l'ont parfait pour les autres versions.
Évidemment. Bref, donc on va s'écouter Tall Tall High, donc toujours la Cordillère Tartare, mais la version moderne, celle de Link's Awakening DXDX. Le morceau dure un peu plus de 5 minutes, donc c'est un petit peu long. Et on se retrouve tout de suite après pour parler de Link's Awakening de manière générale et pour parler de ce remake en particulier. On aura normalement pas mal de trucs à dire.
Voilà. Et de l'amiibo, il est trop beau. Oui, à tout de suite.
C'est l'ami Bobo.
Stop. Stop. Et nous voilà de retour. Pourquoi ? Voilà, c'était long, mais c'était bien.
C'était doux.
C'était très agréable. Bref, nous allons parler de Link's Awakening DXDX. Donc, le remake du remake. Parce que, voilà, alors, Link's Awakening, c'est le Legend of Zelda du Game Boy. Qui est sorti, alors dans nos contrées ça a dû sortir pour Noël 93, au Japon ça a dû sortir en 92 si mon souvenir est bon, je suis pas sûr.
C'est 93.
Ah, c'est 93 pour tout le monde. Remarque, les jeux Game Boy ça devait être un peu plus facile à porter dans le sens où il y a quand même très peu de choses à traduire dans ce jeu.
Moi je pense que c'est un des jeux avec le plus de texte de la Game Boy. Hein.
Ouais non mais c'est pour ça, c'est un jeu qui pour son
avec
époque...
Pokémon.
Oui, effectivement. Qui pour son époque était quand même relativement impressionnant, parce que je rappelle que sur Game Boy en 93, t'avais beaucoup de petits puzzle games à la con, parce que Tetris avait été un succès monstrueux. T'avais quelques jeux de plateforme pas si terribles que ça, et avec Nintendo qui redressait un peu la barre.
Et du coup... Ah ouais, non mais la Game Boy c'est la console au shovelware. Hein.
Ah, clairement, ouais, il y avait.
On est tant oublié parce qu'on se souvient des bons jeux, c'est-à-dire Pokémon, Zelda et les Mario, mais waouh, le reste.
C'est ça, c'est quand même compliqué la Game Boy, et à chaque fois, Nintendo arrive en disant non, mais vous n'êtes pas obligé de faire des petits sprites de merde, vous pouvez faire Super Mario Land 2. Nintendo arrive en disant on peut faire un vrai action RPG qui marche, et ils font Link's Awakening, qui est en plus un jeu hyper référencé dans tous les coins.
Je me demande si le premier Secret of Mana n'était pas déjà sorti à l'époque.
Alors, on
je
parle
crois que c'est avant.
De...
Mystic Quest, du coup.
Alors, en Europe, c'est Mystic Quest, et aux États-Unis, c'est Final Fantasy Adventure, c'est celui-là dont on parle.
Ouais,
Seiken Densetsu, le tout premier.
Seiken Densetsu, ouais.
Voilà. Qui, alors, n'est pas référencé, d'ailleurs, par Link's Awakening. Je suis pas sûr.
Non,
il y a Richard de...
Mais Richard, c'est
RPG
un
super pas connu, pour
attends,
quel
Tardy
grenouille
sonne
le glas. Oui, tout à fait, Tardy a fait un super article dessus. Qui est, en fait, le prince des grenouilles, ou quelque chose comme ça. Qui était assez hallucinant.
A priori, qui est un jeu développé par la même équipe que Link's Awakening. Je crois que c'est ça.
Qui est développé par la même équipe, qui a été développé par la même équipe, et sur le même moteur de jeu que Link's Awakening.
Et avec le même compositeur, de mémoire.
Donc, Tota Keke.
Ouais, enfin, qui était un des compositeurs de...
Un des compositeurs, c'est peut-être pas lui qui a fait, qui a tout fait.
Non.
Voilà, merci beaucoup pour l'édito. Effectivement, c'est « Pour la grenouille sonne le glas ». Où il y a le personnage de Richard avec cette espèce de houppette un peu hallucinante. Parce qu'effectivement, sur Game Boy, les détails, c'est quand même compliqué à faire. Bref, donc, le jeu sort une première fois en décembre 93, donc sur Game Boy normal, Game Boy historique. Puis il ressort en version Deluxe 5 ans plus tard, donc en décembre 98. Alors c'est pareil, ça doit être l'année 98 au Japon, et c'est décembre 98 en Europe, si mon souvenir est bon, encore une fois. Sur Game Boy Color, c'est exactement le même jeu.
Avec quelques différences.
Avec quelques petites différences de traduction, notamment.
De mais traduction, c'est le même des déroulé. Des petits trucs qui ont été modifiés, des petits ajouts, et un donjon supplémentaire, notamment.
Le donjon de couleur.
Et des censures dans la version allemande.
Et alors, la version allemande du jeu original avait une traduction un petit peu au schnapps.
Oui, il y avait quelques références olé olé qui traînaient dans les coins.
Donc là, ça a été supprimé. Pareil, sur la version Game Boy, la sirène, à un moment, qui est dans le lac Martha, la baie Martha, c'est ça?
Ouais.
Elle a perdu son soutien-gorge, alors que dans la version Color, elle a perdu son collier.
Et dans la version DXDX aussi. Ouais.
Bah, c'est-à-dire que comme l'eau est transparente, c'était compliqué de perdre son soutien-gorge.
Donc à l'époque, il n'y avait pas ce problème, hein.
À l'époque, il n'y avait pas ce problème, mais surtout que ce qui est rigolo, c'est que quand tu plonges devant elle sur la version d'origine, donc la version noir et blanc, hein, elle te dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, petit cochon ?» Quelque chose comme ça, petit polisson, quelque chose comme ça, ce qui est quand même... Bon, bref.
Voyou.
Voyou. Alors, est-ce que ça marche, voyou?
Ah bah oui,
personne
oui.
N'a testé, ça marche.
Si, si, moi j'ai testé. Une fois que j'ai fini le jeu, je suis allé tester.
Alors voilà, alors pour la petite anecdote, donc c'est un jeu qui est... Link's Awakening, c'est un jeu qui est vraiment... Alors, C'est presque une parodie de Zelda, et effectivement, étant donné le scénario dont on parlera un tout petit peu après, c'est assez logique, et l'histoire du développement du jeu fait que ça rend le truc encore plus logique. C'est-à-dire qu'en fait, le premier Legend of Zelda, c'était une très petite équipe, celle qui avait fait Mario, qui a fait Legend of Zelda, qui était en fait le fait de dire, on a fait un jeu de plateforme, on va essayer de faire un jeu d'aventure en vue du dessus, très ouvert. Et effectivement, The Legend of Zelda, il y a plein de donjons qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut et tout ça, donc c'est quand même un jeu assez ouvert mais assez difficile. Zelda 2 a été fait par une équipe différente, c'est pour ça qu'il a un style résolument différent. L'équipe d'origine est revenue pour faire A Link to the Past, qui apparemment a été un jeu épuisant à faire. Et du coup, en fait, Link's Awakening a servi de pause à l'équipe, c'est-à-dire qu'ils ont fait, finalement, un Zelda un peu, rigolo, parodie de Zelda.
D'ailleurs, Miyamoto n'était même pas dessus.
Tout à fait.
On a oublié.
Mais en fait, ça marche très bien quand il est pas dessus, parce que finalement, les gens se sont un peu amusés.
Ça marche souvent mieux.
Tout de suite. Bah, remarque, il était sur Star Fox Zero. Ah, c'est pas gentil. Bref, donc le jeu est une espèce de pause pour les équipes qui font Zelda. Notamment, voilà, les designers, c'est une toute petite équipe qui l'a fait, le jeu. Qui l'a fait, pardon, le jeu. Et dans le bouquin d'Oscar Lemaire, l'histoire de Zelda, c'est très 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 bien expliqué. On vous dit que c'est vraiment un truc dans lequel les mecs, ils savaient pas trop quoi mettre dedans. Ils avaient déjà des Goombas, donc ils ont mis des Goombas. Il y a un anti-Kirby qui se balade. Il y a des chompes un peu partout. Enfin, c'est un peu le bordel.
De ce que j'avais compris, le jeu de pêche qu'on retrouve dans le village, c'est un mec qui avait développé Nintendo, qui a développé ça sur son temps libre et qui a été implémenté dans le jeu, genre parce que c'était là.
Je crois que c'est un des programmeurs qui est passionné de pêche et il s'amuse à toujours en mettre des jeux de pêche dans pas mal de jeux, genre Ocarina of Time.
Excellent. Oui, au hasard.
Et donc du coup, oui, ça donne un Zelda un peu particulier. Un peu particulier parce que on apprend très très rapidement, alors ceci n'est pas du divulgachi, mais même si c'en est, c'est pas très grave pour un jeu qui a 30 ans, de toute façon, faites-le, ça vaut le coup d'être fait quoi qu'il arrive. En réalité, assez rapidement dans le jeu, on commence à se poser la question de savoir si tout cela n'est pas un rêve. Tout ce qu'on est en train de vivre n'est pas quelque chose de pas très réel.
Ce qui est important dans cette histoire, c'est que là, on pense que c'est un spoil. Dans la version japonaise, c'était dans le sous-titre du jeu.
Oui, parce qu'en plus, alors la version japonaise, c'est un truc un peu particulier. La version japonaise, en fait, est un triple jeu de mots comme seuls les Japonais savent le faire.
Ah, c'est intraduisible, du coup.
C'est absolument impossible à traduire, ça, c'est clair. Parce que, alors, le titre d'origine, c'est genre...
C'est Yume Omirushima, qui peut se traduire littéralement par l'île que j'ai vue en rêve.
L'île que j'ai vue en rêve, l'île que j'aurais pu rêver.
L'île ou... qui rêve.
L'île qui rêve.
L'île sur laquelle je rêve. En fait, tu peux y aller dans tous les sens.
Et, en fait, c'est, voilà, le truc a genre 5 significations possibles, c'est juste la folie. Et effectivement, le titre t'annonce clairement la couleur en te disant bah, c'est une aventure... un peu particulière, parce que c'est voilà, c'est plus du fantasme, et effectivement tu retrouves cet aspect-là dans tout le jeu, et c'est ça que je trouvais moi très rigolo. Alors, je précise, j'avais joué un tout petit peu à la version Game Boy quand j'étais petit, mais je ne possédais pas la cartouche.
Ouh.
Non, pareil.
Bah oui, donc je n'ai pas pu jouer en entier, donc en fait je l'ai fini là, dans le remake, je l'avais jamais fini avant.
Ouh.
J'avais fait genre les deux premiers donjons, et donc là je l'ai fini, et effectivement tu retrouves plein de détails rigolos, genre les gamins qui te disent bah j'en sais rien, je suis qu'un gamin moi. Enfin, tu vois, ça ressemble effectivement aux personnages que t'as dans un rêve qui ont pas toujours très cohérents, tu vois, parce que finalement comme un PNJ dans un jeu vidéo, il est là pour te donner une information, mais le reste il sait pas, parce que finalement c'est juste un putain de PNJ programmé dans un jeu vidéo. Donc t'as un côté très troisième degré là-dedans, où finalement les développeurs se foutent un petit peu du... Enfin, se foutent pas de la gueule du joueur, mais font un peu genre, bah oui, mais je suis qu'un gamin, comment tu veux que je sache ça? Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne comme histoire en réalité? C'est pas possible. Et je trouve ça très drôle en fait, il y a vraiment un côté très bizarre.
Ouais, c'est bizarre, c'est un peu absurde, et puis en fait, par rapport aux trois Zelda d'avant, ça se prend vraiment pas la tête, parce que même s'il y a un côté assez mélancolique à l'histoire, on y reviendra sûrement un petit peu après. Ça reste quand même un jeu où tu peux choper une peluche de Yoshi, tu vas balancer de la poudre sur un tanuki pour qu'il se retransforme en une espèce d'ersatz de Mario.
De la drogue, c'est pas de la poudre, c'est de la poudre, drogue. Ouais. Attends, clairement, ça fait des effets bizarres aux ennemis. Tu balances sur un machin électrique, il commence à partir en couille.
On en parlait tout à l'heure, mais t'as une des quêtes annexes de la version d'origine, ça consiste quand même à ramener son soutif à une sirène.
Bah, en fait, t'as la trading sequence. Donc,
la quête d'échange.
La quête d'échange.
Comme dans Ocarina of Time, en fait, t'as une espèce de quête secondaire dans laquelle tu vas échanger des objets avec différents personnages, sauf que là, ça fait partie de la quête principale. T'es obligé de la finir, cette quête d'échange. À un moment, t'es vraiment obligé de la finir, et la sirène en fait partie.
Sinon, tu peux pas finir le jeu. Enfin, tu peux pas finir le jeu sans la soluce.
Oui, mais c'est pas drôle si tu finis pas là. Surtout qu'elle est pas si difficile que ça à finir. Elle est un petit peu surprenante. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est le jeu qui se prend pas super au sérieux. En tout cas, sur la partie, on va dire, habillage. Donc le scénario, l'ambiance et tout ça, ça se prend pas du tout au sérieux. Par contre, sur la partie donjon, c'est très très serious business. Hein. Là, il y a pas de...
C'est un peu le jeu qui va codifier les donjons de Zelda pour les 20 ans qui vont suivre. Puisqu'en gros, c'est là où on va avoir le concept du ben, tu rentres, tu récupères un objet, et puis tu vas utiliser cet objet pour... Enfin, tu récupères un objet qui va te permettre de débloquer le reste du donjon, et après tu vas pouvoir aller battre le boss.
Oui, très 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 souvent d'ailleurs, l'objet est utilisé pour battre le boss. C'est pas systématiquement le cas, mais c'est très souvent.
Ce qui était beaucoup moins le cas dans Link to the Past, à titre de comparaison.
Mais souvent, Link to the Past est un jeu dans lequel tu peux tacler une grande partie des donjons dans l'ordre que tu veux aussi. Comme The Legend of Zelda, l'original, et du coup... Bah, t'es obligé finalement d'adapter un petit peu la façon dont tu designes ton jeu, de sorte à ce qu'il y ait pas que les items soient pas tous obligatoires.
Là, t'es obligé de faire le donjon dans l'ordre, parce que si tu finis pas certains donjons, t'as pas d'événements qui vont se déclencher par la suite.
Tout à fait, et donc tu pourras pas récupérer des éléments de la fameuse trading sequence, qui est d'ailleurs assez surprenante hein, en 2019 quand tu fais le remake. Il y a vraiment des moments où tu te dis bah
où je fais quoi
maintenant, où est-ce qu'il faut que j'aille. Puis en fait, c'est en retournant dans des endroits dans lesquels t'es pas retourné. Alors que l'île de Cocoline, t'es quand même toute petite. Hein. C'est vraiment un monde très, très, très miniature. Très
de mémoire, il faisait 64 cases dans la version d'origine.
64 par 64, je crois.
Je sais plus exact.
Bah, 64 par 32.
Non, c'était un carré. Mais c'était pas 64 par 64, ça me paraît beaucoup. Bah, je sais plus, mais ouais, c'était pas très grand. Il y avait une centaine d'écrans à tout casser, quoi.
Ouais, voilà, c'est pas...
Ce qui est assez impressionnant pour un jeu Game Boy, hein. D'ailleurs on l'a pas dit, mais Link's Awakening pour un jeu Game Boy, c'est magnifique. Enfin, il est beaucoup plus beau que que Zelda d'origine, qui était sorti sur NES. Et limite, il est plus proche de Link to the Past que de The Legend of Zelda. Quoi,
bah, c'est surtout au niveau animation, il est quand même complètement fou par rapport à Legend of Zelda sur NES, qui était hyper basique, quoi, avec des sprites tout petits et ainsi de suite. Là, t'as quand même des gros sprites pour de la Game Boy.
Parce qu'en plus, t'as plein de PNJ humains dans le jeu qui doivent tous être différenciables et reconnaissables, et il le fait très très bien, quoi.
Ah, tout à fait. Non, mais le jeu sur Game Boy est hyper impressionnant. Finalement, ce qui est très rigolo, c'est que la version DX est vraiment, comme son nom l'indique, une version de luxe. C'est-à-dire, oui, elle est en couleur, ce qui en fait l'espèce de version ultime du jeu. Elle rajoute un donjon, ok, mais elle est rétro-compatible avec le Game Boy d'origine.
Ah, c'est un truc que tu pourras pas faire, c'est le donjon bonus.
C'est exactement ça. Donc en fait, c'est vraiment le même jeu. T'as vraiment la version ultime, finalement, du jeu.
Donc en fait, c'est un petit peu The Legend of Zelda, Link's Awakening, S, DX, édition ultime.
11, les combattants de la destinée et l'œuf de poisson rêve.
My life as a Dark Lord.
Merde. Merde avec ça. Voilà, donc c'est... Enfin, je le trouve très étonnant dans sa progression, moi personnellement. Alors, du coup, n'ayant pas connu la version Game Boy, ou on va dire très peu connu la version Game Boy, c'est vrai que le premier donjon, déjà le jeu est très dirigiste. Il faut quand même dire que t'as, à chaque fois que tu t'approches d'un donjon, ou que tu en as fini un, enfin pas systématiquement, mais quasi systématiquement, tu as le hibou qui arrive et qui te dit bon, bah maintenant il faut que t'ailles là.
Ça aussi, ça aurait été repris dans Ocarina of Time, d'ailleurs, le hibou.
Alors, le hibou est le côté dirigiste.
Ah bah ça aurait été repris par la suite, le côté dirigiste.
Parce que c'est vrai que Legend of Zelda, le premier, était un jeu très ouvert. A Link to the Past, c'est un jeu relativement ouvert. C'est déjà un peu moins vrai, mais c'est relativement ouvert. Mais là, clairement, le truc te dit, bon, bah voilà, t'as fini le premier donjon, c'est cool. T'as ramené le premier instrument, c'est très très bien. Maintenant, la prochaine quête, faut que t'ailles là. Ouais. Et le truc te lâche comme ça... Et ce qui est rigolo, c'est que les parties de la trading sequence, donc l'échange d'objets que t'es obligé de faire par moment, le jeu par contre ne te donne aucune indication là. C'est-à-dire qu'il te laisse te démerder pour arriver à trouver. C'est-à-dire qu'à un moment,
même chez Pépé, ils te disent pas.
Bah alors si Pépé le Ramolo, il te dit un petit peu des trucs.
Quand c'est le truc que tu veux faire, je pense qu'il te le dit.
Ouais, c'est le super guide avant l'heure, ce truc.
C'est exactement ça, c'est très étonnant.
T'es paumé, tu l'appelles, il te donne un indice.
C'est Pépé le Ramolo.
Mais des fois, il te donne pas d'indice, il te dit c'est à tel endroit, mais il te dit pas exactement ce qu'il faut faire. Le truc étant, quand tu vas à tel endroit, c'est tellement petit qu'au final, tu finis par en faire le tour de tel endroit et par trouver le truc qui va pas par rapport à d'habitude, quoi. C'est-à-dire que tu vas recroiser, tiens, un personnage qui est en train de, je sais pas, faire le con avec un nid d'abeille. Et en fait, bah oui, il se trouve que toi, t'as le pouvoir qu'il faut pour faire tomber le nid d'abeilles. Les abeilles poursuivent le gars, bah tu récupères le miel. Par contre, on te dit pas où est-ce qu'il faut aller échanger le miel. Et là, quand t'appelles Pépé le Ramolo, il te dit pas.
Ok.
Et donc, t'as quand même des moments où faut se souvenir de à qui t'as parlé. Alors, c'est pas grand-chose, parce que finalement, des PNJ, il y en a pas tant que ça.
Des importants, ouais.
Les importants, tu les connais, mais il y a quand même quelques trucs un peu curieux. Voilà, il y a quelques trucs que j'ai trouvé un petit peu bizarres comme ça, où tu t'en sors sans soluce, mais finalement, tu t'en sors parce que tu te dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été là, je vais essayer d'aller y jeter un œil. Voilà. Il n'y a pas vraiment de logique qui t'a guidé à cet endroit-là, en dehors du fait que...
Tu penses aux fantômes.
Je pense à ça, notamment. Ouais.
Mm. Ah oui, le fantôme, ouais. Je t'ai retombé dessus par hasard, donc je me suis souvenu où il fallait aller.
Mais c'est ça, le fantôme, par exemple, personne te dit... Enfin... On va pas se poiler, hein, mais...
Bah, tu l'amènes à un endroit qui semble logique, et en fait, c'est pas là.
C'est ça. Et en fait, non, il y a un autre endroit où ça peut être là.
Ouais.
Mais c'est ça, en fait, à un moment, tu y vas un peu au pif, et
c'est ça, il est pas très loin à côté, mais comme moi, t'as un sens de l'orientation à chier, je suis parti à l'opposé.
Normal.
Et ça a été un peu long, quoi.
Bah ouais, mais bon, mais après c'est le truc, c'est ça, c'est l'île est tellement petite finalement que même si tu dois faire tout le tour de l'île avec le fantôme derrière toi pour arriver à trouver où faut aller, tu finis toujours par trouver où faut aller.
Tu finis par le connaître, ce petit monde, tu t'y sens bien.
Voilà. Ouais, mais ça que j'aimais bien dans Zelda, enfin quand j'y ai fait à l'époque, j'ai fait 9 fois le jeu, hein, pour tout vous dire.
Oh, putain.
Avant de faire le remake sur Switch.
Oh putain.
Donc ça a été très facile le remake sur Switch pour moi. Et en fait, surtout ça qui m'avait marqué à l'époque, c'est que en fait, bah finalement l'île, ces personnages, je les connaissais, tu vois. Je suis un peu revenu à la maison, tu vois. Genre. Tu reviens voir ta famille pour Noël une fois de temps en temps. Bah là, c'était un peu ça. J'étais un peu à la maison. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte de la plus grande qualité de ce jeu que j'ai pas retrouvé dans d'autres Zelda, à part peut-être Majora's Mask. C'est que t'as un côté très très dense du monde et du coup, en fait, tu mémorises assez facilement où est quoi. Bon, quand tu l'as fait 10 fois, ça aide pas mal aussi, hein, on va pas se mentir. Mais ça, moi, je trouve que ça fait partie des grandes qualités du jeu, en fait, c'est que les, ils ont réussi à créer quelque chose d'assez mémorable avec cet épisode. Et même si, voilà, des fois, c'est un peu absurde, et pour trouver à qui il fallait filer le miel, ou la pâtée pour chien, je trouve que c'est celui qui est le plus absurde. Qu'il faut donner la pâtée pour chien, t'as...
Ah, oui, oui.
Voilà, t'as une certaine... Enfin, le monde fonctionne un peu
indice,
sur sa logique.
Un indice, c'est un chien.
Mais c'est le genre de truc qui, effectivement, est très bizarre.
Ouais. Mais voilà, moi, ce que je trouve bizarre, c'est vraiment les personnages sont vraiment marquants. Enfin, marquants dans une certaine mesure, évidemment, mais t'as toujours des petits trucs rigolos ou marquants qui font que tu vas réussir à t'en souvenir à un moment ou un autre.
C'est ça, pour un jeu Game Boy, c'est-à-dire un jeu dans lequel finalement il n'y avait pas beaucoup de couleurs à la base, donc pour arriver à différencier les différentes zones et comment accéder, comment passer de telle zone à telle zone, on peut se dire que c'était difficile. Enfin, c'est pas évident, mais en fait, non, parce que finalement, dans chaque zone, t'as un ou deux personnages marquants, un ou deux bâtiments marquants ou uniques, ou qui a une gueule...
Une petite ambiance.
C'est ça, et puis t'as une ambiance musicale qui fait que finalement, t'arrives à te retrouver dans chaque zone sans trop de problèmes, quoi.
Mais je crois qu'il y a quasiment un truc à faire par case dans le jeu.
Je sais pas s'il y a vraiment un truc à faire par case dans le jeu d'origine.
Peut-être pas autant, parce que il y a une ou deux zones, j'étais un peu genre, mais elle servait à quoi déjà ici?
Je crois que c'est dans Legend of Zelda sur NES, je suis certain qu'il y a un truc à faire par
ouais,
écran.
Il y a
un secret par écran.
Dans Link's Awakening, peut-être pas autant, mais t'as quand même souvent des choses à faire sur un écran, quoi.
Bah t'as aucun écran inutile, en fait. T'as toujours un truc à faire. Je sais pas si dans la version d'origine, il y avait les téléporteurs ou pas.
Alors, oui, il y en avait dans la version DX, mais il y en avait beaucoup moins que dans la version Switch.
D'accord. Parce que là, je trouvais qu'il y en avait déjà pas beaucoup dans la version Switch.
Il n'y en avait que 4 à l'origine.
Et c'était ceux qui étaient sur des plateformes, ceux que tu obtenais en creusant dans le sol ou en soulevant un caillou n'existaient pas.
D'accord, donc celui qui était à la baie de Martha par exemple n'existait pas.
Je crois, ouais.
Du coup, il y a des trucs qui devaient quand même être un petit peu longs. Enfin...
Oui, non, complètement. Les allers-retours, heureusement qu'on n'en faisait pas beaucoup. Hein.
Avant de parler des donjons eux-mêmes, je voudrais quand même souligner ce que je considère comme étant un défaut, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, hein. Je sais pas si ça t'a fait cette impression-là. Alors Antix, toi qui connais très 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 bien le jeu, tu vas peut-être pouvoir me dire si ça te parle. Je trouvais que le deuxième tiers, enfin à partir de la fin du premier tiers de Link to the Past, le jeu ressemblait beaucoup à un Dungeon Rush. Et finalement, tu faisais du donjon. La partie adulte d'Ocarina of Time m'avait donné la même impression, c'est-à-dire finalement sur la première partie, quand t'es enfant, il y a de l'aventure et de l'action. Sur la deuxième partie, il y a clairement beaucoup d'action et beaucoup moins d'aventure.
Mmh.
Et Link's Awakening m'a un peu donné cette impression-là, au sens où, finalement, la partie aventure est assez limitée. C'est-à-dire que t'as la fameuse trading sequence, et puis t'as des passages et des moments où on t'oblige à faire des espèces de quêtes que tu considérerais comme des quêtes secondaires. Je pense notamment au Chomp,
oui,
qui est un truc un peu bizarre. Donc t'as une partie aventure qu'on t'oblige finalement à faire, mais ça ressemble quand même beaucoup à un Dungeon Rush aussi, dans le sens où les trois derniers donjons, tu les enfiles quasiment d'affilée, quoi.
Je trouve que ça faisait un peu moins Dungeon Rush que les deux que t'as cités, qui moi, vraiment, me donnaient cette impression. Dans le sens où, comme t'étais quand même obligé de parcourir le bout de carte que t'avais pas encore vu pour aller à cet endroit-là, t'avais quand même un sentiment d'exploration qui était présent, quoi, parce que je pense que de mémoire, à chaque donjon, t'as quand même une nouvelle zone que tu peux explorer, parce que l'objet du précédent permet d'avancer.
T'avais bloqué le grappin, alors soit ça te simplifie la navigation dans les zones déjà existantes, c'est-à-dire t'es plus obligé d'aller soulever trois rochers, faire le tour, sauter avec un truc, tu peux prendre le grappin pour aller zapper certains trucs, effectivement ça t'ouvre d'autres séquences, mais il y a des séquences complètement optionnelles, par exemple.
Totalement.
Puis si tu cherches pas, tu les feras pas.
Après, il y a des trucs un peu bizarres, genre typiquement l'accès au donjon 7. Je trouve que c'est un des trucs qui est moins évident à comprendre, par exemple. L'accès avec le coq, pour ceux qui l'ont fait.
Okay. Oui, ça fait partie des trucs un peu obscurs. Ou...
Je sais que quand je l'ai refait sur 3DS, ça, j'avais totalement zappé. Hein.
Ouais, quand je l'ai fait, là, en fait, je l'ai trouvé pratiquement au pif. C'est-à-dire que... Alors, je suis désolé, on va un peu divulgâcher.
On a le droit de jouer il y a 25 ans.
Oui, c'est ça.
On a un peu le droit de jouer il y a 25 ans. Donc, pour accéder au donjon 7, en fait, il faut pouvoir voler. Donc ça, si tu explores très très peu, finalement, on finit par te le dire. C'est-à-dire, tu t'en rends compte plus ou moins tout seul. C'est-à-dire, la clé du 7e donjon, Elle est dans un endroit, tu passes par une grotte, tu la vois, tu passes par une autre grotte, tu vois bien que c'est par là qu'il faut passer parce qu'il n'y a pas de mur, mais tu ne peux pas véritablement y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc pour accrocher ton grappin et tout ça, faut vraiment voler. Faut voler au-dessus d'un précipice pendant un certain temps. Donc il faut que tu puisses voler. Voilà. C'est le point de départ, c'est ça. Il y a un des PNJ qui est juste au-dessus de la grotte en question qui dit « J'ai connu un coq qui pouvait voler. » Ok. À un moment, tu tombes sur un fantôme. Alors le fantôme, je sais plus comment tu tombes dessus, d'ailleurs.
Tu sors du palais 3 ou 4, je sais plus.
Ouais, 3 ou 4, j'aurais dit pareil.
Du c'est 4, si tôt que ça.
Du palais 4.
Et pour ouvrir le palais 7
Le fantôme, c'est pour le palais 5, de mémoire.
Le palais... Non, le fantôme, rien à voir. Tu l'emmènes dans sa maison et c'est tout.
Ah oui, pardon, le fantôme, j'ai pas dit ça. Donc en fait, tu vas... Alors moi, je suis désolé, j'ai appelé Pépé Laramolo, hein, c'est-à-dire j'ai pris le téléphone, donc le super guide, pour aller voir ce qu'il fait, et le mec te dit...
Ça serait payant si c'était IA.
Bâtard. Le mec te dit, oh gros, tu devrais aller à tel endroit, il y a une forêt de panneaux, il y a un labyrinthe de panneaux, qui est quand même assez bizarre aussi, que t'as pas exploré. Et en fait, si simplement t'ouvres la carte, tu te rends compte qu'effectivement, il y a un petit morceau de truc que t'as pas exploré parce que tu pouvais pas y aller jusqu'à présent. Mm-hmm. Donc tu y vas, tu fais le truc, tu récupères une mélodie qui te permet d'aller ranimer des trucs morts. Voilà, tu vois le truc un peu tordu. Et en fait, moi, un peu au pif, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'un coq ou d'un truc volant. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, au village, il y avait une statue de coq. Peut-être que si je joue le morceau devant, ça va marcher. Je joue le morceau devant, ça marchait pas. Il y aura peut-être que je peux la pousser, je l'ai poussée. Bah oui, tiens, il y a une grotte en dessous, et en dessous de la grotte, il y a un coq qui est enterré, donc t'as le squelette du coq, et donc tu joues le mélodie, donc ça ressuscite le coq, donc tu peux aller récupérer la clé du donjon 7. Franchement, à 9 ans et demi, je suis pas sûr que je l'aurais trouvé. Hein. Je vais être très très honnête, je trouve que c'était quand même très obscur. Donc tu peux le trouver tout seul, je l'ai trouvé tout seul, c'est-à-dire que j'ai juste appelé Pépé le Ramoulo pour trouver la forêt de panneaux, c'est-à-dire le morceau de carte que j'avais pas encore exploré, donc j'aurais pu le trouver sans l'appeler simplement en allant regarder ce morceau de carte en question. Mais j'ai trouvé ça hyper tordu. Et pour pas grand-chose en plus, c'est-à-dire je veux... Le truc qui vole, tu l'utilises qu'une seule fois, quoi. C'est même pas comme si t'avais un objet spécial qui te permettait d'y aller ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment juste t'as une énigme pour récupérer la clé pour aller dans le donjon. C'est un peu curieux.
Après, ça va crescendo. Hein. Enfin, je sais que le sentiment que j'en ai... Alors, à l'époque, pareil, comme toi, j'avais emprunté le jeu à un pote et j'ai dû faire la moitié. Je l'avais fini sur émulateur après, et là, ça doit être con que la troisième fois que je le fais. Et encore une fois, le sentiment que j'ai, c'est que l'accès au donjon devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment très simple, quoi. C'est sur le chemin. Deuxième, c'est le premier où t'as besoin d'une clé pour ouvrir la porte.
Non, c'est le premier où t'as besoin de la clé.
C'est le premier ? Ok.
Le deuxième, t'as besoin de toutou.
Toutou, c'est vrai. Celui avec la flotte, moi, c'est là où j'ai commencé à galérer pour trouver l'accès. Et...
Oui, le truc qu'on te dit, le hibou il te dit il y a un truc derrière la cascade, et puis en fait, ouais, ok, cool.
Non, alors pas celui... Non, le poisson-chat. Là, c'est le poisson-chat, ah, j'ai pardon. Commencé à galérer. Et après, bah, le temple du masque, j'ai peiné un petit moment pour trouver la porte. Ouais, c'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche. Mais voilà, c'est pour moi, la difficulté pour trouver le moyen d'entrer dans le donjon va crescendo. Donc ça me choque pas que, pour l'avant-dernier, on commence à se faire des nœuds à la tête.
Mais en même temps, pour le dernier, il est quasiment sur ton chemin, quoi.
Bah, tu sais dès le début où c'est qu'il va être, ouais.
Ouais, enfin, c'est quand même un peu... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu curieux, voilà. Je trouve que c'est le genre de truc qui est quand même relativement obscur. Et je pourrais comprendre qu'il y a un certain nombre de gamins qui est buté là-dessus, quoi, bêtement, parce qu'effectivement, c'est pas...
Ouais, c'est un peu un des défauts du jeu, je trouve, pour un jeu de 2019, c'est que t'as vraiment des trucs... trucs un peu à la Mormon-le, quoi, en termes de logique. Ça fait un peu penser au vieux jeu LucasArts, où t'as des résolutions d'énigmes qui sont genre leur propre logique, quoi. Bon, on n'est peut-être pas à ce stade, c'est plus simple, mais...
Non, on est clairement pas à ce stade, c'est plus simple. Mais effectivement, t'as quand même des trucs un peu à la Mormoleneux. Alors, heureusement, comme je dis, le jeu est très dirigiste. C'est-à-dire, finalement, le hibou te dit où faut aller. Dans le remake, tu peux revoir les souvenirs. C'est-à-dire, tu peux aller revoir les dialogues importants. Donc ça permet quand même aussi de simplifier un petit peu les choses. Et puis, tu as des cabines téléphoniques qui sont réparties sur toute l'île, c'était déjà le cas dans l'original, qui servent effectivement de supergin. C'est-à-dire, t'as un mec qui te dit, tu devrais peut-être aller jeter un œil par là. Et puis, bah, en étant un petit peu curieux, en explorant un petit peu, quand Pépé le Ramolo te dit, va jeter un œil par là, si tu retournes un petit peu ce qu'il y a par là, bah, tu finis par trouver. Donc, je me suis jamais retrouvé coincé, hein. Je tiens quand même à préciser, j'ai toujours réussi à m'en sortir.
Oui, c'est ça, t'as l'impression des petites ruptures voilà. Dans la fluidité de ton avancement. Mais
c'est exactement ça.
Ça fait partie de la recette.
Un dernier point avant qu'on parle vraiment du remake en lui-même, les donjons. Effectivement, Antix disait tout à l'heure, c'est presque la formule moderne. Mais t'as quand même quelques donjons bien prises de tête dans le lot, hein.
Alors, je la place tant que j'y pense. Là, on parlait de la formule à l'ancienne où tu as l'objet du donjon qui te permet de buter le boss. J'ai souvenir d'un joypad, du coup, dans les années 90, où je sais plus qui avait fait un dessin, où tu voyais. Donc, il parlait justement du classicisme des Zelda. Tu voyais Link ouvrir un coffre dans un donjon, il chopait un décapsuleur, et un peu plus loin, le boss, c'était une bière.
C'est très bon.
Voilà, des années après, je m'en rappelle encore.
Effectivement, ça revient un peu à ça. Donc c'est vrai que t'as une structure de donjon qui est, on va dire, plus moderne. Legend of Zelda, le tout premier sur NES, la structure de donjon, c'était essentiellement arriver à explorer les pièces, quoi. Battre les ennemis, il n'y avait pas grand-chose de plus que ça.
C'était un peu à l'arrache, on va dire.
C'était un peu austère.
Même Link to the Past, t'as un côté très... je trouve la clé et je trouve la porte pour pouvoir avancer, quoi.
Alors, sachant que je crois que la grosse clé dans Link to the Past ne sert qu'à ouvrir la deuxième partie du donjon en plus.
Oui, tu sers pas nécessairement à ouvrir la porte du boss.
Voilà, c'est.
Et à ouvrir le coffre avec l'objet.
Et non, elle sert à ouvrir le gros coffre où il y a l'item du donjon. C'est ça. Et la deuxième partie du truc, elle sert deux fois, je crois.
D'ailleurs, pour le donjon de Zelda, je vous recommande Boss Keys, la série de vidéos de Game Maker Toolkit. J'ai rematé en jouant à Link's Awakening.
Bah, Link's Awakening, ce que je trouve rigolo, c'est qu'effectivement, t'as ce côté très moderne, enfin pour la partie donjon, où effectivement, tu démarres, on se débrouille pour te faire explorer un petit peu, on te fait trouver des petites clés, on te fait trouver des... T'as les chemins, qui vont juste unidirectionnels, c'est-à-dire que t'as un truc où tu vas dans un mur, pouf, ça se retourne, et puis voilà... T'as quelques petites astuces comme ça, et en fait, l'objectif, c'est effectivement de trouver l'item du donjon.
Souvent derrière le mini-boss.
Souvent, oui, derrière un mini-boss, parce qu'il y en a... Vers les derniers donjons, t'as beaucoup de mini-boss, je trouve. Mm-hmm. T'as un téléporteur aussi, t'as un téléporteur qui va entre l'entrée du donjon et, on va dire, une salle un peu importante, qui est pas tout à fait la moitié, mais qui est en général assez éloignée, donc qui te permet de revenir dessus plus facilement.
Le téléporteur, c'est quand tu tues le mini-boss, d'ailleurs.
Exactement. Et derrière, en général, le boss, tu le bats avec l'item en question, sachant que entre deux, faut trouver la grosse clé. Et la grosse clé sert à ouvrir la salle du boss, et c'est tout.
La porte de son repère, comme il disait dans la version d'origine.
La clé cauchemar. Alors, c'est d'ailleurs bizarre, parce que dans la version française, je crois que c'est la clé du boss, alors que dans la version anglaise, c'est Nightmare Key. C'est la clé cauchemar. C'est rigolo. Enfin, je trouvais ça rigolo, surtout quand tu sais que t'affrontes les cauchemars.
Oui, en plus. Mais surtout, parce que, voilà, moi, justement, petite anecdote sur la traduction française, dans la version d'origine, donc quand t'avais la clé du boss, ils disaient ça permet d'ouvrir la porte de son repère. Et là, dans le remake, ils l'ont changé pour dire ça permet d'ouvrir la salle du boss.
Oui.
C'est un peu moins
romancé. Moi, c'est simple. Hein.
C'est un peu plus simple, un peu moins romancé, j'avoue que ça m'a un peu déçu, mais... Je crois que son repère, quand j'avais 9 ans, ça avait son petit effet.
J'en doute pas. Je n'en doute pas. Bref, donc j'ai vu donc cette formule super classique, il y a quand même quelques petits twists dedans. Alors je pense au donjon des masques, effectivement, le Face Shrine, ouais. En anglais, donc c'est le donjon des masques, c'est ça ?
Mmh. Le temple du masque, je crois.
Voilà. Qu'est-ce qu'il est galère, putain !
Ouais.
Ah, la quantité d'aller-retour à la con que j'ai fait dedans, c'est hallucinant.
Et pareil.
Après, je trouve que le meilleur donjon dans celui-là, c'est le 7. La tour du vautour.
La tour
du vautour.
La tour du vautour, c'est la pire.
Parce que t'as tout un système de boules que tu dois trimballer sur un étage, avec des allers-retours entre cet étage-là et celui d'en dessous, pour pouvoir progresser. Et en fait, l'idée, c'est de casser une partie de la structure du donjon pour pouvoir faire tomber un étage sur... pour pouvoir lui retirer un étage, en fait.
faire tomber un étage dans un autre étage. Enfin, mixer en fait l'étage 5 et 4 ou l'étage 4 et 3 en fait.
En fait, les deux derniers doivent se mélanger quoi.
Et ce qui est très 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 galère, c'est qu'effectivement, on a une très grosse boule en métal qu'on trouve à un certain endroit. Et il y a plein de chemins à sens unique en fait, parce qu'il y a. Comme d'habitude, il y a une espèce de. Enfin, comme d'habitude. Comme très souvent dans les Zelda, t'as un interrupteur qui permet d'aller monter ou baisser des piliers. Donc t'as les piliers bleus et oranges qui peuvent être soit baissés au sol, et donc tu peux circuler, soit levés, et tu peux pas circuler. Et arriver à amener Link et la grosse boule dans la même pièce, c'est très 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 compliqué. Très 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 compliqué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu dois lancer la boule au-dessus du vide pour aller l'envoyer dans un morceau d'une autre pièce, puis aller activer l'interrupteur à l'étage du dessous, puis redescendre pour aller récupérer la boule, pour aller casser le pilier. Il y en a 4 à casser. C'est quand même un beau 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 bordel.
Et moi je trouve que c'est peut-être le donjon le plus intéressant du jeu en fait, de ce point de vue-là. Parce que c'est clair qu'il faut réussir à se repérer et en plus réussir à naviguer entre les deux étages, parce que tu dois régulièrement redescendre au rez-de-chaussée pour pouvoir remonter à l'étage via la boule et pouvoir continuer.
Et tu galères bien parce qu'effectivement t'es obligé de te prendre le cerveau en te disant bon putain, si je redescends là, que j'active l'interrupteur et que je remonte là et que je réactive l'interrupteur à tel autre endroit, je vais pouvoir redescendre là. Enfin, c'est vraiment. T'es vraiment obligé de bien te prendre. Je pense que pour speedrunner le truc, t'es vraiment obligé de connaître absolument par cœur la façon de le parcourir, parce que je vois pas d'autre solution, quoi.
C'est sûr, mais du coup, moi je trouve que c'est un super donjon.
Ah, je suis d'accord, je trouve que le donjon des masques était. Il y avait beaucoup trop d'allers-retours à la con.
Là, par rapport à celui d'avant, enfin j'insiste, mais par rapport à celui d'avant, d'un coup tu dis, oula, ça devient sérieux là.
Le niveau est monté d'un coup, on est bien d'accord. Il y a une espèce de gros. Level up qui est assez hallucinant, mais t'arrives à t'en sortir, hein, le donjon des masques, t'arrives à te débrouiller.
Non, mais voilà, globalement, tu explores, t'es bloqué, c'est pas par là, ça doit être ailleurs, et tu finis par t'en sortir.
Mais je le trouve effectivement beaucoup trop d'allers-retours qui servent pas à grand-chose, alors que celui du vautour est rigolo par le côté, oui, il faut arriver à amener la boule et Link dans la même pièce, sachant que quand Link porte la boule, bah, en fait, il y a plein de trucs qu'il peut pas faire, donc du coup, bah, t'es obligé d'aller réfléchir un peu... En séparé, c'est presque... Ça ressemble beaucoup, je trouve, au Jabu Jabu dans Ocarina of Time, où il y a des moments où t'es obligé d'avoir Ruto pour pouvoir la poser sur certains interrupteurs, et donc t'es obligé de te démerder pour avoir Ruto et Link dans la même pièce, et comme t'as pas les mêmes capacités, bah c'est pas si évident que ça. Et donc t'es obligé de faire quelques contorsions cérébrales pour arriver à retrouver le truc. Donc tu galères un peu, mais tu finis toujours par t'y retrouver. Il y a juste quelques astuces qu'il faut arriver à comprendre tout de suite, c'est-à-dire tu peux poser la boule sur les piliers quand ils sont levés, tu peux toi-même aller sur les piliers levés, et si t'as la plume, tu peux sauter par-dessus certains chemins.
Ah oui, parce qu'on pouvait sauter
voilà.
Dans celui-là.
Et oui, c'est le premier Zelda où on pouvait sauter, c'est pas le seul.
Non, parce que les deux autres sur Game Boy, on peut le faire aussi.
Oui, et par contre, A Link to the Past, tu pouvais juste tomber, ce qui sert dans certains donjons, mais... Voilà. Est-ce qu'on parle un tout petit peu du remake maintenant pour essayer d'exposer les quelques-unes des petites nouveautés, notamment d'ergonomie? Je pense surtout à ça.
Ça me choque absolument pas que ce remake existe, vu que c'est Koizumi qui a participé à l'écriture de l'original, et que le monsieur est aujourd'hui producteur de la Switch.
Voilà. Donc c'est sa faute si je pleure à chaque fois que j'entends la balade du poisson rêve. Voilà.
C'est, qui est très très bien d'ailleurs, la balade du poisson.
Très jolie.
Bah, on vous recommande aussi le mambo de...
Du poisson chelou.
Du poisson. Le mambo de mambo.
Le mambo de mambo, qui est un petit bonheur.
Du coup, tu veux qu'on parle du remake?
Bah ouais, ce remake, pour moi, enfin,
alors, sachant qu'on a toujours pas parlé du scénario.
C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du scénario, c'est fou. Bon, on finira sur le scénario, comme ça c'est
voilà.
Le style graphique, il est choupi trognon. Parce que ça, on peut le dire.
D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une. J'ai regardé une vidéo, c'est une vidéo française sur YouTube, alors, je retrouve le nom, mais le titre globalement, c'était pourquoi le style figurine. Je pense que si vous tapez ça dans YouTube, vous trouverez. Et en gros, le mec explique pourquoi est-ce qu'on a ce style-là pendant toute la partie jeu, et que les cutscenes de début et de fin sont dans un style beaucoup plus réaliste en termes de proportions.
Mais ce qui était aussi le cas sur Game Boy, mais qui était moins évident à voir.
Parce que c'est pour des raisons techniques. On se dit que c'est pour des raisons techniques, alors qu'en fait, il y a peut-être aussi
une raison scénaristique.
Voilà. un petit peu plus utile. Alors, c'est la petite, petite mention. Je vous conseille de regarder pour comprendre un petit peu le choix de l'esthétique. Et moi, j'aime beaucoup. C'est tout choupi.
Oui, puis t'as cette impression de regarder une maquette, en fait, parce que t'as l'arrière-plan qui est un peu flou, l'avant-plan qui est un peu flou, donc t'as l'impression que c'est une espèce de caméra super macro sur une maquette. Mmh. Et t'as le petit blink qui s'agite quand il court. Enfin voilà, c'est tout mignon, tout trognon.
Bah, en plus, quand t'as connu la version Game Boy, c'est genre dans un autre monde, quoi. Voilà, en fait, c'est un petit peu, généralement, on dit nos souvenirs, ils sont beaucoup plus beaux que la réalité. Là, je pense que c'est même plus beau que mes souvenirs, hein, ce qu'ils ont fait. Hein.
Ouais, c'est vrai que le jeu est magnifique.
Bah, c'est assez agréable de découvrir en fait tous ces sprites que j'avais vus, qui étaient parfois pas toujours pigés compréhensibles. Qu'est-ce que c'était de les voir modélisés en 3D et réinterprétés, ça a son petit effet, hein, parce que tu redécouvres un petit peu le jeu, du coup. Et du coup,
Tu redécouvres. Surtout que tu n'as plus, t'as plus vraiment ce déplacement case par case, enfin ce tableau par tableau, écran par écran. Parce que là maintenant c'est un déplacement fluide.
Alors, sauf dans les donjons du coup.
Alors sauf dans certains donjons, t'as quand même des morceaux de pièces dans certains donjons qui, enfin t'as des pièces en fait dans les donjons qui avaient été conçues comme étant des écrans unitaires et donc ça c'est resté. Et t'as d'autres pièces qui à l'origine étaient étalées sur 3-4 écrans parfois un peu plus qui là sont fluides en termes de déroulement. Donc en général t'as une pièce, c'est un écran unitaire qui scrolle pas. Enfin, qui peut scroller éventuellement, mais je veux dire qui reste d'un tenant. Par contre, oui, quand tu passes d'une pièce à un autre de donjon, là, effectivement, t'as une coupure, comme sur la version d'origine. Mais je pense que ça aurait trop cassé les donjons d'avoir un truc hyper fluide, en fait.
Ouais, je pense aussi.
Ça t'aurait permis de voir ce qu'il y a dans la pièce à côté, ça aurait été un peu bizarre. Bref, il y a une autre petite nouveauté.
Et ça aurait flingué le maker.
Oui, peut-être, oui. En plus, oui. Enfin, qui est à peu près sans intérêt. C'est parti des petites nouveautés.
Je crois que j'avais pas regardé.
Mais... Ouais, enfin, c'est... Pas grand intérêt.
Je préférais quand c'était le photographe de la version DX.
Ouais, c'est un peu ça.
Il y avait des petites scènes rigolotes.
La deuxième nouveauté dont j'ai envie de parler, c'est la partie ergonomie. C'est-à-dire que sur Game Boy, je rappelle, deux boutons, hein, A et B, comme sur NES, pas plus. Et donc, bah, en fait, même quand j'étais petit et même avec seulement deux donjons au compteur, je me rappelais qu'il fallait très souvent aller dans le menu pause pour aller mettre l'épée sur le bouton B, mettre la plume sur le bouton A, puis retourner dans le menu pause et mettre les bottes de Pégase sur le bouton B, puis la plume sur le bouton A.
C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, le bracelet de force ou les bottes de Pégase, c'était des items qu'il fallait équiper.
Ce qui simplifie encore plus la vie, hein, faut bien imaginer, puisque ça veut dire que tu galérais encore plus. Là, non seulement t'as des items qui sont équipés en permanence, alors notamment effectivement le bracelet de force et les bottes de Pégase, le bouclier est équipé en permanence.
L'épée aussi
est équipée en permanence.
Pas la plume, fait chier.
C'est pas très grave.
Techniquement, si, parce que je crois que je l'ai quasiment jamais enlevé.
Ouais, moi je l'ai toujours mis sur le bouton X et puis elle a pas bougé quasiment de tout le jeu. Mais voilà, t'as deux boutons d'action comme dans l'original, donc là c'est X et Y. Mais du coup, t'as des boutons permanents où voilà, le bouclier est sur R ou ZR, les bottes de Pégase sont sur L ou ZL, l'épée est sur B. Et donc voilà, t'as plein de trucs qui sont équipés en permanence et ça simplifie quand même grandement la vie parce que tu fais déjà, je trouve, beaucoup d'aller-retour dans le menu. Malgré ça. Et ça fait quand même plaisir. Alors, il y en a qui ont râlé sur le côté technique.
Ça m'a pas dérangé.
Ça se voit quand même vraiment au début, après tu t'habitues.
Ça se voit de temps en temps, mais honnêtement, ça se voit quelques secondes et ça passe.
Bah, disons que c'est quand même dommage pour un jeu...
Ça reste dommage, on est d'accord.
Pour un jeu qui est quand même super joli qu'on ait ce genre de ralentissement, quoi.
Ça reste dommage, je suis d'accord, mais là, pour moi, c'est
sur
pas...
Marais, sur le lac.
C'est pas assez
flagrant. Ouais, voilà, le marais des éléments, je suis bien d'accord.
Je disais, c'est pas assez flagrant pour me faire dire que le truc est
injouable, quoi. Non, ça, je suis d'accord. Enfin, ce serait abusé de dire que le jeu est injouable parce que ça rame.
Surtout que la version Game Boy, elle ramait aussi, hein.
Oui, en plus.
Parce que dès que t'as 3 sprites à l'écran sur Game Boy, ça devient compliqué.
Oui, puis la version Game Boy, elle se joue sur Game Boy, hein.
Ah, tout à fait, non, mais... Donc c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça choquant, donc effectivement, comme disait Zergy, le marais des anémones, oui, parce que là, ça se voit. Je veux dire, le truc, il pédale dans la choucroute et ça se voit. Mais pour le reste... Good enough, ouais, c'est ça. Alors oui, c'est Nintendo, on aurait pu s'attendre à un truc parfait. C'est pas parfait. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y en a qui ont été très 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 durs sur le côté de la technique du jeu, parce que, ben... En fait, mine de rien, le fait d'avoir un flou en avant-plan et en arrière-plan, le fait d'avoir tout un tas de textures, enfin, il y a un boulot monstrueux qui a été fait sur les textures et les comment dire, le rendu des objets, qui fait que la matière, en fait, qui compose tous les objets, t'as vraiment l'impression d'avoir plusieurs matières que tu pourrais pratiquement toucher, quoi. Les shaders dessus, ils sont assez hallucinants.
Ouais, non, il y a un super boulot sur le visuel, hein. Ça, c'est pas un truc qu'on remarque du premier coup d'œil, mais quand tu fais un petit peu attention, il y a une vraie attention du détail, même dans les effets et ce genre de trucs, hein.
Oui, voilà, les coquillages, ils sont très légèrement brillants. T'as tout un tas de trucs où c'est vraiment travaillé pour ressembler à de la pâte à modeler, ressembler à du plastique. T'as un côté très tout est brillant, parce qu'effectivement, on dirait pratiquement une maquette. Mais le bois ressemble à du bois. Enfin, t'as l'impression que c'est du bois de pâte à modeler, mais il est là, quoi. Il est presque tangible. C'est assez hallucinant, je trouve, comme boulot. Donc, du coup, bah, ouais, enfin, ça, c'est pas juste un tout petit jeu simple à faire tourner. Je pense qu'il doit quand même y avoir un peu de. Il doit quand même y avoir un peu de patate derrière, notamment parce que moi, j'ai une petite expérience très rigolote, hein, c'est que je trouve qu'il pompe de la batterie sur la Switch, mais à mort.
Ah ouais.
Donc, du coup, ouais, je pense qu'il est pas si simple que ça à faire tourner. Enfin, bref.
Tu vois, je serais beaucoup plus critique sur le logo de la jaquette de l'édition collector.
Après, si je voulais être méchant, heureusement qu'ils ont bossé la partie visuelle, parce que le jeu est exactement le même qu'en 93.
Oui, c'est un remaster, près, mais ouais. C'est... Ouais, il y a eu quelques efforts de fait sur 2-3 trucs ergonomiques, mais sinon... le jeu est quasi identique. Alors après, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à changer par rapport à 93?
Pas
mieux, et l'ennemi du bien.
Deux, trois éléments pour simplifier un petit peu les indications sur la quête des échanges, par exemple, dont on parlait un petit peu avant, les trucs... Je fais n'importe quoi. Les trucs un petit peu... Peut-être faciliter la compréhension de certains éléments, mais en vrai, non, globalement, je trouve que le jeu tient encore la route. Hein.
Alors, est-ce qu'on finit sur le scénario? Parce que... Allez. Comme ça, on peut clôturer l'émission sur une bonne note. Donc là, par contre, on va divulgacher, mais alors comme des gros porcs. Hein. Donc si vous avez envie de découvrir ça par vous-même, c'est le moment où il faut décrocher.
Spoiler, je pense que c'est un des meilleurs scénarios de la série Zelda.
Oh la vache, t'es un peu raide.
Moi, oui, clairement. Moi, je pense que c'est un des meilleurs.
Et Majora's Mask. Et Majora's Mask.
Ben, un des meilleurs. L'autre D'accord. meilleur étant Majora's Mask.
Donc, le truc de départ, hein, qui est dans la cinématique d'intro, qui est donc dans un style animé un petit peu particulier, c'est que Link se retrouve pris dans une tempête et s'échoue sur cette île. Et donc le truc très bizarre, c'est qu'en fait, au départ, il est dans un style animé très joli, d'ailleurs. Je sais pas quel studio a réalisé ça, mais c'est vraiment très très bien animé. Et c'était le cas aussi sur Game Boy, en fait, où c'était une espèce de petite séquence... une scène cinématique sur Game Boy, c'est quand même assez fou quand tu y réfléchis.
Une cutscene
complètement folle, et en fait, tu atterris sur l'île où tu te retrouves en étant une espèce de petite figurine.
L'île de Cocolin.
Voilà, et tu es recueilli par Marine. Alors, c'est très bizarre parce que Marine voit un étranger s'échouer sur la côte, mais ne pète pas un plomb. Alors,
c'est parce qu'elle n'est pas blonde.
C'est peut-être ça.
Et que parce que son père n'a pas un œil de verre.
Mais il a une moustache. Donc, du coup,
ça c'est chaud.
Et donc tu te réveilles, et c'est très bizarre parce que, alors sur le remake, ça se voit, t'as vraiment une espèce de dissonance énorme entre la scène cinématique d'intro qui est toute animée, et le fait que tu te retrouves dans une espèce de monde de poupée, c'est très bizarre. Sur Game Boy, ça se sent moins, en tout cas au départ, mais en fait, on t'explique assez rapidement que tu es le héros, tu dois réveiller le poisson rêve, et... c'est quand même bizarre, quoi.
Parce que
sinon, mais le monde va disparaître.
Si tu es japonais, tu sais très bien pourquoi l'histoire.
Donc l'histoire, c'est que, en fait, tu es... Alors, on sait pas vraiment si c'est un rêve ou une hallucination, ou c'est quand même...
Alors surtout, ce qui est assez ambigu, c'est qu'on ne sait pas si
c'est... Toi, t'as pas lu le mur du fond dans la grotte.
C'est pas si, j'ai lu le mur du fond.
Mais en fait, surtout, on ne sait pas vraiment si c'est un rêve du poisson rêve, ou un rêve de Link, ou un mélange des deux.
En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la toute fin, donc Link libère le cauchemar du poisson rêve, donc le poisson rêve se réveille, et tu vois Link qui se retrouve naufragé en fait, mais en pleine mer, et donc tu sais pas en fait s'il s'est tapé une super alu de bâtard parce que ça fait 2 jours qu'il a pas bu, et qu'il a le soleil qui lui tape sur la gueule et qu'il est en pleine mer, ou si il a vraiment vécu cette aventure-là, il a vraiment, le poisson rêve existe vraiment, et c'est ça que je trouve rigolo, c'était cette espèce de côté très ambigu. Et quelqu'un qui avait comparé ça avec Total Recall, en fait, où tu sais pas à la fin si...
Oh, mais oui.
Mais c'est exactement ça, je trouve. C'est à la fin, tu sais pas si... À Total Recall, en fait, le mec, on lui vend le fait qu'il va passer des vacances et être un super espion pendant ses vacances. Et en fait, la machine part en couille, et le film fait que, le mec va sur Mars...
Si on est dans son délire, voilà. Ou si c'est la réalité.
C'est exactement ça, tu sais pas si c'est la réalité, ou tu sais pas si c'est les vacances telles qu'il les a imaginées. C'est-à-dire si c'est le souvenir des vacances qu'on lui a implanté. Parce que finalement, on lui a dit, à la fin, t'emballes la fille et tu sauves la planète. Et à la fin, il emballe la fille et il sauve la planète. Et toute l'ambiguïté du film repose là-dessus. Et je trouve que Link's Awakening a un peu le même genre d'approche dans lequel, à la fin, tu sais pas si c'est le rêve du poisson rêve ou tu sais pas si c'est, il s'est tapé une super alu. Mais tu sais que t'étais pas dans la réalité, ça c'est sûr.
D'autant les deux rêves.
D'autant que dès le boss final, les différentes formes du boss final, c'est des cauchemars de Link, en fait. Quand tu regardes bien, qui c'est.
Oui, effectivement. C'est, tu retrouves les différents...
Tu retrouves Aghanim et Ganon.
Tu retrouves Aghanim. Donc, effectivement, tu retrouves des cauchemars de Link.
Les deux rêves, quand tu délivres le poisson rêve à la fin, il dit « Réveillons-nous ensemble ».
Ah, j'avais pas fait attention à ce détail.
D'ailleurs, tu vis un rêve en même temps que le poisson rêve. Link se réveille au début de la cutscene de fin, hein.
Tout à fait. Ce qui est très rigolo, c'est que du coup, il y a un moment où, en fait, c'est toi l'élément perturbateur. C'est ça que je trouve amusant, c'est que, alors, tu es le héros de l'éveil, c'est-à-dire, c'est toi qui vas réveiller le poisson rêve parce que le poisson rêve ne peut pas continuer à dormir. C'est dangereux, c'est-à-dire, tu risques de mourir si le poisson rêve ne se réveille pas. Donc, t'es quand même un peu obligé d'avancer. Mais au fur et à mesure que, enfin, en fait, c'est toi l'élément perturbateur. C'est-à-dire, finalement, les cauchemars que tu combats, qui sont les boss du jeu. Eux, ils ont rien demandé à personne. C'est toi qui vas les faire chier, finalement. Ils perturbent pas particulièrement la vie des habitants. Enfin, peu, on va dire. Un petit peu quand même, mais pas tant que ça.
Bah, y'en a qui ont volé toutou, quoi.
Ouais, voilà, mais c'est le seul truc. Et c'est même pas un cauchemar qui a volé toutou. C'est juste un...
Oui, c'est des moblins.
Hein. C'est juste des moblins qui sont dans le coin, donc... Et chaque cauchemar que tu bats, en fait, va te dire de plus en plus de trucs là-dessus. Et je me rappelle d'un qui était assez rigolo, qui disait, mais tu te rends compte que si tu réveilles le poisson rêve, on va tous mourir. Effectivement, oui. Ils vont tous mourir, tout ce qui est sur cette île va mourir, tous ses habitants vont mourir.
Mais d'ailleurs, c'est aussi un truc qui est abordé par Marine, qui est un peu la copine de Link.
Qui est un peu ta waifu.
Total waifu. Et t'as toute une cinématique, c'est... À un moment, elle t'accompagne dans le jeu, et tu fais genre discussion... au bord de la mer, bon, c'est une de mes scènes préférées du jeu. Hein.
C'est très intime en fait, c'est ça qui est rigolo.
C'est là où le côté mélancolique débarque, c'est que en fait, tu comprends en fait, quand t'as déjà fait le jeu, tu comprends pendant la cinématique qu'elle a plus ou moins conscience en fait de quoi
être,
de ce qu'elle est. Et d'ailleurs, donc elle en parle, Link évidemment étant muet. Elle se demande s'il écoute, ce qui est très drôle. Oui. Et à un moment, elle dit « J'aimerais beaucoup être une mouette pour pouvoir voir ce qu'il y a au-delà de l'île, tu vois. »
C'est la seule qui a conscience qu'il y a un monde à l'extérieur de l'île.
Qui a conscience de n'être qu'un rêve. Enfin, de ne faire partie que d'un rêve du poisson rêve et donc d'être éphémère.
Voilà. Et en fait, surtout, ce qui est très beau, c'est que si tu finis le jeu sans mourir, eh ben, tu as une petite cinématique avec Marine dedans, dont je tairai la surprise. Mais c'est plutôt une jolie conclusion. Dans ce cas-là.
Oui, c'est rigolo parce qu'il y a aussi une bonne fin, effectivement. Si tu finis le jeu sans mourir, tu as une petite séquence supplémentaire après la fin du jeu. Qui concerne Marine. Effectivement, je vais pas la gâcher parce que je pense que ça vaut le coup, surtout que c'est pas très compliqué en fait à faire en plus, parce que là, surtout dans le remake, avec le système de sauvegarde automatique, vous faites un reset et puis voilà. Quoi.
Le fait que tu puisses avoir des faits dans des bocals pour avoir encore plus de vie en cas de besoin, parce que
tu peux vraiment y aller. Hein.
Ouais, non, ça vaut le coup. Enfin, après, c'est un truc qui est plutôt connu, mais je vous conseille quand même soit de le faire, soit d'aller voir sur YouTube.
Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez bizarre parce que finalement, c'est Link l'élément perturbateur. Alors, il est censé réveiller le poisson rêve parce qu'il faut réveiller le poisson rêve. Il combat les cauchemars, mais les cauchemars, en fait, ils ont juste peur de mourir. Hein, c'est tout bête, hein, mais le fait que Link les tue, c'est problématique. Mais eux, ils ont peur de la vraie mort, c'est-à-dire le fait que le poisson rêve se réveille et que l'existence s'arrête de leur point de vue. C'est ce qui fait que ça fait un scénario un peu bizarre, où t'as un côté très mélancolique. T'as cette petite séquence sur la plage qui est effectivement assez extraordinaire, parce que je crois qu'on n'a jamais vu un Zelda dans lequel on a revu un truc, c'est-à-dire une séquence très intimiste entre deux personnages.
C'est vraiment un... Enfin, c'est une séquence que je pense dans un Zelda qui n'existe peut-être que dans Majora's Mask, et encore, je suis pas sûr d'en avoir un équivalent. Mais ouais, c'est peut-être même la première fois d'ailleurs où t'as un personnage qui se confie à Link de cette façon-là dans un jeu.
T'as un petit équivalent dans Ocarina of Time, la première fois que tu vas voir la princesse Zelda dans le château. T'as
ouais,
une scène un peu...
Ouais, il y a un truc comme ça, mais encore Zelda, tu vois, c'est différent, parce que c'est la meuf qui est dans le titre, tu vois. Marine, genre, c'est un peu la paysanne en comparaison, quoi. Sans être méchant, mais...
Bah ouais, mais elle t'a sauvé, tu vois, donc...
Mais c'est vrai que pour le coup, pour Link, elle a l'air vachement plus abordable. Parce
que ouais, c'est à dire que normalement Link, bon, c'est quand même un 6 sur 10, hein, faut être honnête. Et donc, ouais, le mec voit une Célestine 10 sur 10 débarquer, c'est Zelda, ah, c'est chaud du cul, on sait qu'il va pas se la taper. Alors que.
Parce qu'elle est princesse en plus.
Elle est princesse en plus. Alors que Marine, je veux dire, elle ressemble à une patate, il y a peut-être moyen de quelque chose, quoi.
La petite revient rapido là.
La petite rousse du village où il n'y a pas un seul mec de son âge.
Ouais, non, mais c'est. C'est vrai que le scénario est un peu bizarre, et en même temps, il est hyper simple. Enfin, je veux dire, on vous a résumé le scénario, là, en 5 minutes, c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a pas de... C'est essentiellement une ambiance, et finalement, il n'y a pas... C'est pas une histoire très lourde qu'on raconte à travers des cinématiques, c'est une histoire qu'on découvre par petits morceaux en parlant aux gens. Et ça aussi, c'est rigolo, parce que tu peux passer à côté d'une grande partie de l'histoire si tu ne t'intéresses pas à la vie des gens dans le village des animaux. Alors, la séquence sur la plage, t'es obligé de la faire avec Marine, je crois.
Oui, t'as pas le choix. Sinon, elle ne vient pas avec toi. D'ailleurs, après, tu la lèves au-dessus de toi comme si je l'avais obtenue comme un objet. C'est très étrange.
C'est assez curieux.
C'est ce genre de.
Tu soulèves Marine.
Tu as donc levé Marine.
Voilà.
Non, mais c'est le féministe.
C'est ça, mais c'est le genre de truc qui est très second degré où effectivement, c'est le Zelda parodie. C'est Marine est un objet comme un autre. Tu la soulèves au-dessus de toi parce que tu as trouvé l'item qui va te permettre d'avancer. C'est vrai que c'est. Bon, c'est très curieux. Bref. On va peut-être s'arrêter là parce qu'il commence à être vraiment tard. Sauf si t'as quelque chose à rajouter.
Petit truc sur une vidéo YouTube que j'ai vu ça. Où, étant donné que t'as Link et le poisson rêve qui sont en train de rêver, certains supposent que l'île est rêvée par le poisson rêve et Marine est rêvée par Link.
Ah, c'est rigolo ça comme point de vue. Ça pourrait se tenir finalement. C'est-à-dire que Link rêverait finalement de le partenaire idéal, entre guillemets.
Il y en a qui pensent aussi que Marine serait un être créé par le cauchemar pour justement séduire Link et l'empêcher de réveiller le poisson rêve.
C'est marrant, j'adore quand il y a des interprétations de fans comme ça qui vont très 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 loin dans le truc. Il n'y a rien dans le jeu qui indique ça, mais c'est pas complètement con.
Mais rien qui indique le contraire.
Voilà.
Ça, c'est un peu comme les théories sur de Majora's Mask.
C'est exactement ça, il n'y a rien dans le jeu, c'est pas officiel, le fait que ce soit les 5 stades du décès ou je sais pas quoi.
Du deuil, pardon.
Ça n'est absolument pas officiel, mais quand tu regardes les faits, ça transparaît marche. Partout. Quoi, donc
ça colle pas trop mal.
Voilà. Bref. Antix,
le chat demande si t'as versé ta larmiche à la fin.
Oui.
Oui, il a versé sa larmiche.
J'ai versé ma larmiche à la fin et je l'ai versé quand j'ai découvert qu'ils avaient fait une version chantée de la balade du poisson rêve.
Oh oui, c'était bien ça aussi. Bref. Bon allez, il faut qu'on s'arrête là les enfants, ça commence à être un peu long. Bref, donc Link's Awakening DXDX. C'est le meilleur démarrage d'un jeu Switch en Europe depuis le début de l'année. C'est pas étonnant, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissaient le jeu sur Game Boy.
Parce qu'il y a marqué Zelda sur la jaquette.
Non, pas que ça.
Pas que ça, mais ça aide pas mal.
Ça aide, c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens... Enfin, que la Switch se vend très bien, ce qui est une très bonne nouvelle, et qu'il y a plein de gens qui connaissaient le jeu d'origine.
Et qu'il y a des darons, il y a des enfants qui l'achètent.
Exactement, il y a des darons qui l'achètent pour eux, mais aussi pour leurs enfants, pour leur faire découvrir ce jeu-là, et je pense que c'est quand même un excellent jeu à découvrir. Sachant que... si je peux vous donner un conseil, si vous galérez, n'hésitez pas à regarder une soluce, en fait. Ça vaut le coup de se débloquer de temps en temps, d'aller un peu plus vite dans la trading sequence. Qui est pas...
Ressortez votre vieux Nintendo Player voilà, de 94.
De 94. Mais le jeu est exactement le même. Ça vaut le coup juste pour profiter de l'ambiance et de ce côté maquette hyper cartoon. De se faire aider un peu, c'est pas très grave.
Mais d'ailleurs, si vous avez jamais joué au jeu, vous êtes un grand fan de Earthbound, bah c'est un petit peu le même genre d'ambiance. Ah. Un peu moins travaillé, je trouve, parce que Bitoy est un autre niveau.
Plus petit, oui.
Et un autre niveau, mais ça, c'est assez proche, en fait.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est le côté second degré, plusieurs niveaux de lecture possibles, ça y ressemble un peu. Donc, pas inintéressant. Bref, donc un must. Bon, jouez-y, quoi. Là, arrêtez de faire les cons, on vous l'a vendu pendant une heure.
Ouais, après, je sais pas si à 60 balles en neuf, il se finit très vite quand même, hein.
Bah, une petite dizaine d'heures, quoi.
Ah ouais, c'est vite.
Bon, ça va, franchement, ça va.
Si l'on fait la démo de Dragon Quest.
Non, mais si on compare comme ça, je veux dire, il y a des jeux qui sont des chefs-d'œuvre alors qu'ils durent beaucoup trop longtemps.
Non, mais je suis d'accord. Pour moi, la durée fait pas la grandeur d'un jeu.
On a dit, c'est pas la taille qui compte.
Moi non plus, mais si vous avez déjà joué, attendez qu'il soit à 30€, tu vois, si vous hésitez.
Mais ça n'arrivera pas. S'il marche bien.
Et écoutez la BO. C'est le même mec que Link Between Worlds et il a fait du super boulot à nouveau.
Oui. Effectivement. Bref, donc nous, on va se retrouver donc dans une semaine normalement au podcast. Voilà, tout va bien. Et dans deux semaines, je ne sais pas du tout quel sera le sujet de l'émission. On arrive en fin de tunnel, malgré tout.
Non plus.
On commence à décompresser un petit peu.
Et dans deux semaines, Luigi ne sera pas sorti.
On va peut-être faire un petit pot pourri de 2-3 autres petites choses. C'est possible, parce qu'il y a quelques petits jeux qui sont sortis, notamment Ukulele and the Impossible Lair, qui est
un peu sorti en 12 voir. Quand même, non ?
Voilà, et qui a l'air bien sympathique. J'ai pas encore joué, mais ça m'a l'air d'être très très bien. Donc voilà, il y a peut-être quelques... Alors, on va peut-être se faire un petit pot pourri d'indé et de choses comme ça, ou de choses qu'on a joué il y a pas longtemps,
oh, yes.
Où on verra en fonction de ce que l'actualité...
Il y a plein de promos en ce moment, regardez le shop, il y a des trucs qui valent vraiment le coup.
Voilà, donc peut-être qu'on fera un petit tour des jeux promos, par exemple, ça peut faire une émission. Bref. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines, merci de nous avoir suivis, ciao, bisous tout le monde.
Bisous.
Bye.